Après le déjeuner pour tout le monde, effectivement. En plus, on est vendredi. Donc, je vais avoir besoin de votre participation pour que personne ne s'endorme complètement. Donc voilà, on va tenter d'être pas mal dans l'échange. Moi, ça va me permettre aussi de faire connaissance. Donc alors, rapidement, juste pour me présenter, donc je suis sociologue de formation. Je suis amené à travailler, alors je travaille un petit peu à l'université, mais aussi principalement dans deux associations, une qui s'appelle Trajectoire, qui intervient, en fait, qui fait ce qu'on appelle des recherches-actions, ou parfois des diagnostics, et qui intervient notamment beaucoup sur la question des bidonvilles dans différentes régions en France. Et c'est un petit peu comme ça que j'avais été en lien, parce que j'avais été amené à faire une formation. Vraiment sur, ouais, on va dire des groupes assez précis qui sont dans des bidonvilles à Montpellier, qui viennent en plus d'une seule petite commune de Roumanie, voilà, que je connais assez bien et autres. Et donc c'est comme ça qu'on avait pu échanger sur différents aspects où on avait de la contrainte à commettre des délits, effectivement des mariages très précoces, l'exploitation domestique, tous ces aspects-là. On travaille là-dessus, mais aussi sur différents types de migration pour lesquels l'accompagnement social classique ne semble pas fonctionner. Et donc, toujours pour prendre l'exemple à Montpellier, c'est vrai que j'avais été amené à travailler un peu sur la question des mineurs non accompagnés. Alors, il y a quelques années, on avait beaucoup de jeunes Marocains, notamment vers Plan-Cabane, qui se retrouvaient à vendre du shit. Et tout n'était pas complètement logique, et donc du coup, c'est pour ça qu'on est amené comme ça à faire des études. Et puis voilà, il y a quelques têtes que je connais, et voilà, sur aussi d'autres formes de migration, sur les mineurs non accompagnés guinéens, des femmes d'Afrique subsaharienne. Enfin, donc voilà, mon travail dans ce cadre-là, c'est de faire beaucoup de recherches-actions. Puis maintenant, on a toute une équipe, et donc on est plusieurs à faire des recherches-actions sur différentes ville en France, qui permet parfois de faire des ramifications. Et puis je m'occupe d'une autre association, alors je le dis ici parce que ça a un rapport avec notre sujet, qui s'appelle Coucha et qui est en fait un centre caché quelque part en France. Bon, tout le monde me demande c'est où. Non, mais c'est pas la peine. Qui va accueillir, alors là c'est que pour des mineurs qui sont victimes de traite. Et maintenant, cette association, enfin en tout cas, l'accueil existe depuis 2021. Voilà, et donc, moi, mes recherches en tant que chercheur, si vous voulez, ça porte sur la migration et sur la traite des êtres humains. Donc, un peu la mission ici, c'est finalement de parler de personnes qui subissent l'emprise, mais qui sont aussi dans cette infraction traite des êtres humains. Et ce sont des personnes souvent, alors qu'on a du mal à repérer, parce que cette question de la traite des êtres humains est peu connue. En revanche, c'est un avantage pour vous, puisque c'est bien ça qui nous intéresse, c'est que, alors il y a une politique pour la traite des êtres humains, il y a donc, si vous voulez, un certain nombre de droits pour les victimes, et donc si on arrive à identifier ces situations de traite des êtres humains, c'est un levier pour des personnes qui sont prises dans des situations d'emprise. Et c'est un peu ça qu'on va chercher à décrypter, parce que souvent on a une vision assez limitée, si vous voulez, de la traite des êtres humains. Pour beaucoup de personnes, la traite des êtres humains, ça serait uniquement des femmes victimes d'exploitation sexuelle. Donc c'est une forme de traite des êtres humains, mais ce n'est pas la seule. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un travail de formation à faire. Enfin, je donne aussi des formations à l'ENM, alors c'est l'École nationale de la magistrature, pour des magistrats qui sont censés connaître la loi, vous voyez, et qui en plus là viennent de façon volontaire, hein, donc on ne les a pas forcés, et qui voilà, n'avaient pas pensé que ça pouvait relever de la traite des êtres humains. Alors que si on prend la loi, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Donc c'est pour ça que on va ensemble essayer de voir un peu vos situations et de comprendre un peu à quelle forme certaines peuvent être en fait rattachés, si vous voulez, à cette infraction traite des êtres humains. Alors bien sûr, on va essayer d'expliquer ce que c'est que la traite des êtres humains en quelques mots. Voilà, il y a une législation. Alors je ne vais pas vous embêter trop sur la législation, mais juste pour savoir, en fait, la première loi qui tente d'avoir une infraction qui est la même dans tous les pays, qu'on appelle traite des êtres humains, c'est en 2000. Et à votre avis, voilà, j'ai dit que je vous ferai participer, donc je vais vous poser des petites questions. À votre avis, pourquoi en l'an 2000, on s'est dit, tiens, on va faire une loi pour lutter contre la traite des êtres humains? Alors, vous voyez, c'était le protocole de Palerme, mais c'était porté par l'ONU. Voilà, je vous donne un indice. On a jusqu'à 16h30. Hein. Alors, une guerre, n'hésitez pas à parler fort, parce que peut-être qu'il y en a qui ont dit la réponse, mais je ne l'ai pas entendu, ça serait dommage. Ouais. Donc, j'ai entendu par ici une guerre, c'est ça? Oui, alors effectivement, il y a une guerre. Mais de quelle guerre s'agit-il? Comment? C'est pas l'Irak? Non, c'est pas l'Irak, ouais. Alors, il y avait une guerre en Irak à peu près à ce moment-là, ça vous avez raison, un petit peu avant, mais il y a une autre guerre aussi. Voilà, le Kosovo, alors l'ex-Yougoslavie, tout à fait. Et donc, cette guerre d'ex-Yougoslavie, donc en fait, au début des années 90, à partir de 1992, voilà, on a différents mouvements, mais on a des républiques de la Yougoslavie qui décident de se détacher avec un principe qui est, là on a des personnes qui se disent serbes, bah, ça appartient à la Serbie, là on a des personnes de Croatie, ça appartient à la Croatie, et donc du coup, les républiques commencent à revendiquer des territoires qui étaient en dehors des frontières de, si vous voulez, c'est un État fédéral de chaque république, quoi. C'est un peu comme si, on va dire, tiens, bah, dans le nord, il y a une partie de gens qui viennent d'Occitanie, donc cette partie-là, elle est à nous, quoi. Donc c'était un peu ça le principe. Et en fait, donc, bon, voilà, il y a la guerre qui s'est déclenchée là-dessus. Et pour tenter de stopper cette guerre, du coup, il y a eu une intervention massive de casques bleus. 100 000 en Bosnie, 130 000 au Kosovo. Et en fait, cette intervention massive de casques bleus a fait qu'il y a une sorte de marché au noir qui s'était mis en place parce qu'il y avait un embargo sur la Serbie. Et dans ce marché au noir, donc, qui était pour de l'essence, des cigarettes, enfin, oui, il y avait vraiment un embargo, eh bien, on a commencé à faire venir des filles de Moldavie, de Roumanie, d'Ukraine. Alors, pas que pour les internationaux, mais quand même, on avait des hommes jeunes avec un pouvoir d'achat très important pour le coin, donc ces fameux casques bleus, qui étaient massifs, qui étaient venus en tout cas seuls. Et donc, du coup, il y a eu tout un mouvement, effectivement, pour faire venir des filles, créer des bordels. Et donc, l'ONU, qui l'ONU gère les casques bleus, est arrivée à la conclusion que c'était plus... C'est eux qui le disaient, effectivement, qu'ils étaient plus... Ils faisaient plus partie du problème que de la solution dans cette histoire. Donc, c'était un effet collatéral qu'ils n'avaient pas prévu. Personne ne l'avait prévu. Et donc, du coup, ils ont mis en place cette fameuse loi, ce protocole de Palerme. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que normalement, les lois, notamment sur la traite, doivent s'adapter à la réalité. Et ce n'est pas l'inverse. Il ne faut pas qu'on cherche à faire coller une réalité dans des lois, quoi. Et c'est pour ça que ces lois sont floues, mais pas floues parce qu'elles ont mal été écrites. C'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Et donc, on essaye justement d'avoir un vocabulaire assez flou. Et bien sûr, le phénomène s'est modifié. On n'a pas que du trafic de femmes, mais c'est sans doute ce qui est le plus connu. Et donc, du coup, les lois se sont réadaptées. D'autres législations, ce qu'on appelle la Convention de Varsovie, qui est donc une convention qui lie la plupart des pays d'Europe, alors pas de l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, il y a 27 pays. Au Conseil de l'Europe, il y en a combien? Ouais. Bon, après, j'arrête avec mes questions comme ça. Mais... Surtout que je ne connais même pas le nombre exact, mais en gros, il y en a une cinquantaine. Mais voilà, vous voyez l'Albanie, la Bosnie, etc., qui ne sont pas dans l'Union européenne, ou la République de Moldavie, l'Ukraine sont dans le Conseil de l'Europe. Donc là, du coup, on s'est aperçu que la loi du protocole de Palerme était plutôt faite pour lutter contre les réseaux criminels. Et dans la Convention de Varsovie, on essaie de renforcer la partie protection des victimes, qui était un peu négligée dans le protocole de Palerme. Donc on s'est aperçu que c'était vraiment un manquement. Et enfin, il y a une directive 2011-36 de l'Union européenne qui, là aussi, va expliquer aux États qu'il faut absolument protéger les victimes de traite des êtres humains. Alors, la difficulté, c'est que la traite des êtres humains, dans les discours, tout le monde est pour lutter contre la traite des êtres humains. Ça, c'est sûr qu'on trouve ça moral, normal. Sauf que dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait des remontées de terrain et d'insister, parce que sinon, ça ne marchera pas. Au moment de cette directive, donc une directive, ça s'impose à tous les pays membres de l'Union européenne, qu'ils le veuillent ou non. Ils n'ont pas le choix, ils doivent transposer la directive. C'est vraiment le droit supranational qui s'implique. Et là, il y a 2 ans, il y avait 2 ans pour transposer cette directive. Et au bout de ces 2 ans, je crois que c'était le 6 avril 2013, à votre avis, combien d'États sur les 27 qui étaient membres ont transposé dans leur droit national cette directive pour lutter contre les victimes de traite. Alors il y a quelqu'un qui est optimiste qui me dit zéro, alors non, un peu plus. Combien? 5? Ouais, alors on était à 6. Et parmi ces pays, effectivement, on était plutôt sur Roumanie, Bulgarie qui venaient de rentrer, qui voulaient faire un peu les bons élèves. Mais la France, l'Allemagne, etc., l'Espagne, tout ça, personne ne voulait la transposer. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas qu'en matière de traite, c'est assez particulier parce qu'en fait, les vrais moteurs, c'est l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui mettent la pression sur les États. Les États, et ce n'est pas franco-français, ce que je vous dis, c'est vraiment, vous voyez comment malheureusement on le vérifie à chaque fois, les États souvent ont peur de reconnaître des victimes. Et en France, une de ces peurs s'explique parce qu'ils ont peur d'ouvrir une nouvelle voie de régularisation des étrangers. Ce qui veut dire qu'ils ont l'impression que les victimes de traite des êtres humains, c'est uniquement des personnes étrangères, vous voyez, souvent en situation irrégulière. Ce qui, on va voir, n'est pas le cas. Hein. Y a des étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. Alors, bien sûr, dans un État, il y a différents rapports de force. Donc, tous les ministères ne pensent pas de la même façon, bien sûr, mais c'est vrai que chez nous, le ministère de l'Intérieur a beaucoup de poids, et donc souvent, il arrive à imposer une ligne politique. Et là, l'Union européenne s'est un peu énervée quand elle a vu, sur tous les pays qui ne voulaient pas reconnaître, et donc ils leur ont proposé de faire un name to shame, donc de dévoiler la liste des pays qui ne souhaitent pas lutter contre la traite des êtres humains et protéger les victimes. Et du coup, il y a beaucoup de lois qui sont apparues. Et donc, en août 2013, on a une loi en plus qui est très bien faite en France pour lutter contre la traite des êtres humains. Donc, bon, ça, voilà, c'est juste pour vous expliquer que ça sera toujours un peu une lutte, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que ce soit un niveau macro comme un niveau micro dont on fait partie ici, eh bien voilà, il va falloir argumenter pour que des personnes puissent être reconnues comme victimes de traite, même si les personnes elles-mêmes, comme on a pu le voir aujourd'hui, ne se reconnaissent absolument pas comme victimes. Donc c'est là où l'équation devient complexe. Donc quelquefois, vous avez un peu l'impression d'être seul à prêcher au milieu du désert. Mais voilà, le fait qu'on soit tous ensemble, ça montre qu'on n'est pas seul. On prêche au milieu du désert, mais à plusieurs, donc c'est déjà un peu mieux. Donc, du coup, on a finalement cette législation sur la traite des êtres humains, et souvent, elle est complétée par d'autres directives. Et par rapport à la problématique que vous souleviez sur les mariages précoces, eh bien, il y a une nouvelle directive qui a été prise par l'Union européenne en 2024. Et pareil, il y a 2 ans pour la transposer. Alors, je vous rassure, elle n'est pas encore transposée. Mais normalement, c'est censé être cette année. Justement, qui dit que maintenant, le mariage forcé. Alors là, il ne parle pas de précoce, pas précoce, parce que ce n'est pas c'est pas que des mariages précoces qui sont forcés, eh bien, est considéré comme traite des êtres humains. Avant, c'était un moyen de recrutement. J'amène une belle fille, je lui fais faire tous les travaux de la maison, c'est de l'exploitation domestique. Maintenant, juste le fait de prouver qu'on est sur un mariage forcé, alors qui est souvent pas en acte, hein, si vous voulez, c'est des mariages dits entre guillemets traditionnels, eh bien, c'est considéré comme de la traite des êtres humains. Et ça, c'est pas une législation qui s'applique qu'à la France, mais comme c'est une directive de l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, tout ce que vous voulez, sont soumis à cette même directive. Et donc normalement, bon, là, l'Union européenne maintenant est un peu plus méfiante, donc ils mettent une grosse pression pour que fin 2026, on ait bien cette législation dans plusieurs pays, la Belgique, la France, enfin tous les pays membres de l'Union européenne. Ouais. Encore une fois, c'est des leviers qui, même parfois, les magistrats ne les connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de s'informer, parce que c'est pas forcément... Il n'y a pas beaucoup de publicité, et y compris dans le travail social, mais pas que. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à voir tous les acteurs. Donc, régulièrement, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne et les conseils de l'Europe vont identifier des formes de traite qui sont mal couvertes par la loi, et donc vont quelque part, comme on dirait maintenant, updater, quoi. Ils vont donc compléter la loi pour éviter qu'il y ait des failles dans lesquelles s'engouffrent des personnes qui exploitent. Et c'est important parce que ça fait changer les représentations. Dès qu'on parle de mariage précoce, on est persuadé que c'est quelque chose de traditionnel. Or, souvent, c'est des représentations qui sont assez fausses. Par exemple, régulièrement, enfin, quand je suis amené à faire des entretiens avec des familles, et j'ai une fille qui a 14 ans qui s'est mariée. Enfin, donc, alors je le vois parce qu'elle est enceinte, et donc là, dans ce cas-là, c'est synonyme. Je vais demander, mais en fait, ta mère, elle s'est mariée à quel âge ? Elle va me dire, bah, ma mère, c'était à 16 ans, et ta grand-mère, 18 ans. Donc, on s'aperçoit que nous, ce qu'on perçoit comme quelque chose de traditionnel, où on voudrait aller contre la coutume, en fait, ce n'est pas du tout une coutume. Ouais. C'est vrai qu'ils vont se marier plus jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se marier à 14 ans. Et ce n'était pas forcément le cas avant. Et donc, c'est ça qui doit nous interroger. Alors, on continue un petit peu. Alors, bon, là, on n'est pas obligé de tout lire, je ne vais pas faire trop peur. Mais la loi, elle était construite en disant qu'en gros, il faut trouver trois étapes. Le fait de recruter des personnes dans un pays ou dans le pays où elles sont. Le fait de les transporter et le fait de les exploiter. C'est ce qu'on appelle le but. En fait, de plus en plus, si vous voulez, il peut y avoir... alors, le recrutement, c'est quelque chose qui est important parce que ça montre qu'il y a eu l'intention d'exploiter une personne. Et on va voir qu'il y a plein de façons de recruter où les personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont recrutées. En revanche, la question du transport, c'est de moins en moins valable. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous devez amener des éléments, si vous voulez. En revanche, sur le but, alors là, en fait, j'ai repris l'article de loi en France. Vous voyez, on voit qu'on est sur des catégories assez larges, réduction en esclavage. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est fait exprès pour qu'on puisse y rentrer des situations qui seraient difficiles comme ça à décrire. Et alors, on voit qu'il y a l'exploitation de la mendicité, alors vous voyez, qui n'est pas forcément perçue comme une forme de traite. Et enfin, on a ce qu'on appelle aussi le fait de commettre tout crime ou délit. Donc encore une fois, là, c'est mot à mot, là, les articles de la loi. Ce qui fait que si vous forcez une personne à commettre un délit, eh bien, ou un crime, ça peut être considéré comme de la traite des êtres humains. Et ça, est-ce que ça vous fait penser à des situations de personnes, par exemple, qu'on contraindrait à commettre des délits ou des crimes dont voilà, vous entendez parler, soit. Ouais, alors je. Allez-y, je ne sais pas si quelqu'un a levé la main ou si c'est moi qui ai des hallucinations, mais oui. Non, non, c'est pas vous, ok. Ouais, exactement. Par exemple, dans le domaine du narcotrafic, eh bien, on peut tout à fait invoquer la traite des êtres humains. Alors que c'est très peu fait. Ça commence un peu à bouger, mais c'est très peu fait et. Voilà, quand on en discute avec des magistrats, ils se disent qu'en fait, ça serait plus facile même de prouver que ces personnes ont été exploitées que d'essayer de, comme tout est cloisonné, de trouver les liens de hiérarchie, si vous voulez, dans le cadre de l'organisation du trafic en tant que commerce, si vous voulez. Donc, du coup, ça peut être aussi. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a d'autres formes de. Contrainte à commettre des délits. Alors, la prostitution, non, mais là, on est sur. Alors, le truc, c'est que dans la prostitution, une des stratégies de sortie, c'est souvent de monter un petit peu dans les étages, quoi. Et donc, on peut passer de personne qui va être prostituée, exploitée sexuellement, à recruteuse. Alors, c'est pas toujours évident, bien sûr. Après, c'est le magistrat, lui, qui devra se prononcer. Hein. C'est pas vous. Mais on sait que c'est voilà, une stratégie de sortie, ou même on peut contraindre une personne à recruter. Donc, du coup, voilà, tout est envisageable. Alors, bah, là, on parle uniquement de la France, parce que là, j'ai pris juste la loi française, mais les lois sont très similaires parce que. Encore une fois, comme c'est encadré par une directive, on ne peut pas. Enfin voilà, du coup, c'est les mêmes formes d'exploitation qui sont à peu près dans tous les pays, dans la législation nationale. Et en fait, ça c'est un point que je n'ai pas dit, c'est que, comme au début, c'était un crime transfrontalier, c'est-à-dire un trafiquant roumain qui allait. Recruter une Moldave qui l'a amené à la frontière avec la Serbie, un Serbe qui l'a revendé, qui l'a revendé voilà, à des Bosniens, etc., etc. Du coup, le principe de la traite des êtres humains, c'est qu'on est à la même législation partout. En Allemagne, par exemple, l'infraction de proxénétisme n'existe pas. Ce qui fait que si on a une affaire de proxénétisme qui concerne la France et l'Allemagne, cette qualification pénale, elle ne fonctionne pas. Et donc, ça va compliquer les enquêtes. L'intérêt d'avoir unifié la législation, c'est pour ça que c'est décidé à un niveau au-dessus, vous voyez, Union européenne, Conseil de l'Europe, voire l'ONU, c'est que, en fait, on n'est pas, les enquêteurs ne sont pas freinés pour lutter contre des réseaux internationaux ou frontaliers, tout simplement. Parce qu'en fait, ils vont retrouver les mêmes législations partout. Oui. Oui, un morceau de chaîne suffit. Et justement, par rapport aux questions d'hébergement, d'habitat, bon, qui vous touchent beaucoup, en fait, alors si je prends un exemple classique, un hôtelier qui n'a rien à voir avec le trafic, mais qui sait qu'il y a des passes qui ont lieu dans son hôtel, il va être considéré comme complice de traite des êtres humains. Un CHRS. Qui en fait, où certaines chambres serviraient effectivement à ce que voilà, des passes soient effectuées. Enfin, je prends cet exemple-là, on pourrait en prendre d'autres. Et ben, il y aurait la même complicité. Ouais, il faut savoir que du coup, il y a vraiment cette complicité. Et cette complicité, ça peut être juste le fait d'héberger ou de transporter. Quelqu'un qui ferait le chauffeur. Pour amener voilà, des jeunes filles mineures d'un point A à un point B, sachant pertinemment, alors c'est ça qui est parfois pas toujours évident à prouver dans l'enquête, mais sur des écoutes, parfois c'est assez évident, eh bien, dans ces cas-là, il va être considéré comme complicité de traite des êtres humains. Donc, voilà, une seule de ces parties suffit à qualifier la complicité. Pas l'organisation en entier, mais la complicité. Oui. Non, mais c'est. Oui, complètement. Alors après, on verra, et puis là, on aura le temps de rentrer dans les détails, mais par exemple, si on est sur l'exploitation domestique, voilà, faut noter les amplitudes horaires, enfin, il y a pas mal de choses à noter comme ça. Mais effectivement, hébergement contre service sexuel, ou le fait de se retrouver en fait à tout faire, à devenir une sorte de domestique, vous voyez, à faire toutes les tâches ménagères, s'occuper des enfants bas âge et autres, on est effectivement sur la traite des êtres humains. Quand on prend la législation française, hein, c'est pas une appréciation sociologique, hein, c'est vraiment une appréciation juridique. Alors. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces situations, en fait, vous en voyez plein, mais on ne les repère pas. D'une certaine façon, moi, la traite des êtres humains, ça me fait un peu penser, il y a 10 ans, quand on parlait des violences faites aux femmes, alors si je parle de façon un peu triviale, on était persuadé que c'était que des cas sociaux qui tapaient leurs femmes, quoi. Et puis, heureusement, il y a des observatoires, des études, on en a parlé davantage, et on s'aperçoit que ça touche tous les milieux, que c'est beaucoup plus vaste que ce à quoi on l'avait réduit. Et ben, je pense que sur la traite des êtres humains, vous voyez, on est encore à ce premier stade, qui est de voir que quelques situations, effectivement, de 5 femmes nigérianes, 3 femmes colombiennes qui seraient exploitées, et que le reste, ce n'est pas de la traite. Donc voilà, l'intérêt, alors même si j'espère que ça ne sera pas vertigineux, parce qu'il ne faut pas que vous ressortiez en voyant de la traite partout, comme on peut voir de l'emprise partout, c'est le risque hein, qu'on a, nous, c'est que... Après, voilà, on ne voit plus les choses de la même façon, mais parfois, on voit trop les choses. C'est justement d'être en capacité, en tout cas, de les distinguer et les faire remonter, les signaler. Complètement. Je vais vous prendre un exemple bête dans les bidonvilles. C'est vrai que, pourtant là, c'est dans le cadre de la loi, mais ce qui est assez frappant, c'est que le fait de ne pas faire remonter des situations ne permet pas de faire changer les choses. C'est-à-dire que, normalement, vous et moi, en tant que citoyens, même pas travailleurs sociaux, eh bien, vous avez vent d'une situation, vous faites ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante. Ça, c'est n'importe quel citoyen doit faire ça. Quand on regarde les statistiques des IP dans les bidonvilles, alors c'est pas à Montpellier, c'est partout, au niveau national, franchement, c'est le meilleur, c'est l'endroit le plus safe qui existe pour vos enfants. On a 0 IP, il se passe rien. Il se passe rien dans les bidonvilles, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est l'endroit sans doute le plus protecteur qu'on peut proposer à vos enfants, c'est d'aller en bidonville. Et ça, vraiment, ça pose problème. Ça pose problème parce que les choses ne changent pas. Et même si vous faites 10 IP et qu'il n'y a rien qui se passe, donc je peux comprendre le découragement et on aura l'occasion en petit groupe de discuter de tout ça, bien sûr. Mais en fait, la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, va dire ben nous, on n'a pas de signalement. Donc on ne peut pas justifier d'embaucher, par exemple, une équipe qui va aller évaluer dans les bidonvilles qui serait spécialisée. Enfin, je prends cet exemple-là. Parce qu'en fait, on a 4 signalements par an. Enfin, vous voyez, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas énorme. Alors que si on avait 70 signalements et qu'on est incapable d'en évaluer aucun, c'est quand même difficile de tenir, si vous voulez, pour la CRIP en disant, bah, en fait, on a 70 signalements, on est incapable de les évaluer, ce n'est pas grave. Vous voyez, donc, il faut accepter malheureusement ce temps-là, c'est qu'on fait remonter, parfois il ne se passe rien et ça peut être décourageant. mais il y a une trace et il y a une remontée de terrain. Et en fait, si les acteurs de terrain ne font pas remonter les situations, personne ne va les voir en fait. Il n'y a pas quelqu'un en haut qui va appuyer sur un bouton et qui va dire, tiens, c'est incroyable quand même, il y a plein de situations, mais personne ne les voit. D'où l'intérêt, si vous voulez, que vous soyez là, c'est que faire remonter cette connaissance, effectivement, ce n'est pas que des chercheurs qui pourront le faire. Et souvent, les chercheurs, même s'il n'y avait pas les acteurs de terrain qui avaient fait remonter, bah, ils n'auraient pas eu l'idée même de chercher. Donc là-dessus, vous avez un rôle qui est vraiment essentiel, c'est que voilà, des phénomènes qui ne sont pas encore connus deviennent connus. Et après, ça devient tellement connu qu'on a l'impression que bah oui, c'était évident, pourquoi on l'a pas fait avant? Oui? Oui, j'entends. Enfin, là, on va pas rentrer dans le. Justement, on a un temps spécial pour ça. Mais justement, ça sera très important que vous apportiez des situations, qu'on parle vraiment du concret et comment travailler à partir de ça. Mais en tout cas, voilà, finalement, il y a que vous qui voyez ça. C'est-à-dire ce que vous décrivez là. J'entends parfaitement, et c'est pas que ici que ça se passe. En revanche, vous voyez, il y a pas grand monde en dehors de vous qui pouvait comprendre ça. Que c'est problématique, qu'il y a tant de situations, est-ce que c'est 10%, 15%, 20%, 50%? Vous voyez, on ne sait pas très bien. Oui, je vous en prie. Oui, alors, bon, de toute façon, on verra un petit peu dans les réponses, mais d'une part, c'est vraiment efficace d'avoir des groupes de travail qui vont mélanger comme ça institutions et associations sur ces questions-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, un mariage avant 18 ans, c'est comme en France, voilà, c'est pas possible. Et en fait, quand il y a, par exemple, une jeune fille de 14 ans qui se marie avec un jeune homme de 16 ans, eh ben, il y a une poursuite pénale. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que la loi est beaucoup plus ferme en Roumanie qu'en France, en tout cas son application. Du coup, on a plein de gens qui disent, mais en fait, ça, on ne pourrait pas le faire en Roumanie, donc on va le faire en France. Il y a un vrai décalage, bon, on aura le temps d'en parler vraiment dans les détails, sur, en fait, sur l'impression qu'on a. Effectivement, que bah, c'est comme ça dans leur pays, donc on est impuissant parce qu'ils ont intégré ça depuis qu'ils sont tout petits. et la législation. Et après, il y a vraiment des choses à faire, par exemple en termes de prévention, en travaillant sur justement les grossesses précoces, vous voyez 14 ans et autres, eh bien on s'aperçoit qu'en fait les familles à risque, on va les identifier. C'est-à-dire s'il y a une jeune fille de 14 ans qui a commencé à se marier, celles qui ont 10, 11 ans de la même famille seront à surveiller. Donc on va voir que ce n'est pas toutes les familles, c'est pour ça que c'est très important aussi de quantifier. Après là, on rentre un peu plus on va dire de la recherche très empirique, mais de la recherche quand même, et de bien identifier les familles, et bien de trouver un protocole. Et pour moi, en plus, enfin, là on pourra discuter, mais on est vraiment à Montpellier sur des groupes qui viennent de quelques communes en Roumanie, ce n'est pas 15 000 communes de Roumanie. Et donc le fait de travailler en aller-retour avec la Roumanie, fait que justement, le fait que dès qu'il y a un problème, on part en Roumanie, on fait ciao parce que la justice commence à s'intéresser à nous ou je ne sais quoi. À partir du moment où on travaille des deux côtés, parce que la protection de l'enfance, c'est la même, eh bien, on est nettement plus efficace dans le discours qu'on porte. Parce que les familles ont compris que maintenant, on était en lien aussi avec les homologues roumains. Oui, il y avait une question. Oui.
Oui, non, c'est une précision parce que je suis roumaine et je suis intervenante sociale. Je travaillais en Roumanie et ici avec des bidonvilles. Et je voulais juste rappeler une précision qu'en fait, la loi, effectivement, elle est plus dure en Roumanie, mais en Roumanie, comme ici, il y a beaucoup de racisme et les Roms ne sont pas traités comme les autres. Et donc, quand il y a des mariages jeunes là-bas, si c'est les Roms, on les laisse tranquilles. La loi, elle ne s'applique pas comme ici. Quand il y a de l'absentéisme scolaire, c'est comme ici. C'est leur coutume, on ne se mêle pas. Et du coup, c'est un peu de partout, on laisse ces populations un peu de côté et personne n'y fait rien. Je voulais juste.
Alors, ouais, ça, faut vraiment voir par commune, parce que c'est vrai que moi, je vais régulièrement dans les villages, dans les différents. Et on a de tout, comme partout. Il y a des assistantes sociales qui sont hyper investies, qui ne laissent rien passer. D'autres, effectivement, ils se disent, bon, c'est des Roms, on s'en fout. C'est juste que, enfin voilà, souvent comme c'est. Le racisme est beaucoup dans les lieux anonymes. Dans une grande ville, effectivement, on va dire, bon, il y a le cigane ou ça. Et du coup, là, on va dire, ok, c'est un cigane, on s'en fout. Par contre, dans un village, comme c'est des gens qui ont grandi ensemble, quelquefois, voilà, on dépasse un comportement raciste qui est basé un peu sur l'anonymat. Donc c'est pour ça que. Mais après, encore une fois, on voit bien que dès qu'on ouvre des tiroirs, on a besoin de creuser. Et c'est pour ça que, voilà, avec Elsa, on a imaginé vraiment des temps de travail là-dessus pour qu'on puisse aller en profondeur. Parce que oui, on ne peut pas juste énoncer des choses sans pouvoir les creuser et trouver des leviers. Alors, du coup, oui, juste alors pour revenir de façon un peu plus générale sur la traite, avant qu'on. Parce que comme vous avez des publics assez différents, c'est pour ça que je ne vais pas trop insister sur un seul public, parce que sinon, j'ai peur que voilà, une partie de la salle ne s'y retrouve pas. En fait, voilà. Quelques idées sur la traite. Alors, à votre avis, est-ce que trafic d'êtres humains ou traite des êtres humains, est-ce que c'est la même chose? Ouais. Donc, ça c'est la même chose. Et si je dis trafic de migrants et traite des êtres humains? Alors, trafic de migrants, non. Ouais. Vous voyez, c'est subtil. Alors, dans les discours, on entend toujours qu'il faut lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Or, le trafic de migrants, alors, pour que tout le monde soit, c'est ce qu'on appelle les passeurs, hein, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. En gros, tout simplement, un trafic de migrants, vous payez pour obtenir un service, passer une frontière, et quand vous avez passé votre frontière, et ben, après, vous n'avez plus de lien avec cette personne qui vous a aider contre rémunération à passer la frontière. Alors que sur la traite des êtres humains, on a bien compris que là, l'emprise dont on a parlé ce matin va servir aux trafiquants, si on prend cette fois-ci leur point de vue, à maintenir la personne dans une situation où elle est là pour vous rapporter de l'argent. Ouais.
Prends l'exemple des Nigériens.
Ouais.
Au départ, il y a quand même le paiement par la famille pour que
Alors, tout à fait, il peut y avoir un continuum. Merci pour cette question. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais plus on lutte contre le trafic de migrants, contre les passeurs, plus quelque part on va développer la traite des êtres humains. Alors, pourquoi je peux me permettre d'affirmer ça? C'est qu'en fait, on va prendre un exemple que tout le monde connaît en France, c'est Calais. Tout le monde a entendu parler de Calais. Ouais. Moi, au tout début, j'avais travaillé à Calais, je crois que c'était, je sais plus, en 2005-2006. Le passage, c'était entre 0 et 500 euros. On était sur, en gros, les passeurs, c'était un peu des migrants qui voulaient se refaire un peu et qui aidaient à passer d'autres migrants. C'était très artisanal. Depuis, avec tout ce qu'on connaît, la frontière était sécurisée, pour prendre voilà, la terminologie utilisée. Donc, on a mis une double, voire une triple barrière. Il y a, au niveau du terminal, il y a des détecteurs de respiration humaine, il y a des chiens, enfin bref, il y a tout un arsenal qui a été mis en place. À votre avis, est-ce que le passage est devenu plus cher ou moins cher? Plus cher, voilà. Donc en fait, dès qu'on sécurise une frontière, en fait, on va, si vous voulez, faire en sorte que vous êtes totalement dépendant d'un passeur. Parce qu'il faut un professionnel du passage pour réussir à passer cette frontière tellement elle est sécurisée. Et plus c'est difficile, plus c'est cher, on est d'accord. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à contourner tous ces systèmes-là. Et dans le cas des Nigérians dont vous parlez, ce qui va créer la traite, c'est qu'en fait, ça a un coût de passer. Et quand les personnes n'ont pas assez d'argent, eh bien, elles vont emprunter de l'argent. Et dans une grande partie des situations de traite, l'emprise commence par de la servitude pour dette. Donc en fait, là, il y a un continuum, c'est-à-dire que le prix pour venir jusqu'en Europe, la façon de le rembourser, eh bien, va vous faire basculer dans l'exploitation. Pas tout le temps, hein, mais dans le cas là, des Nigérians ou dans d'autres cas, eh bien, c'est ça que ça crée. Donc en fait, ce qui est paradoxal, c'est plus on sécurise les frontières, plus les prix du passage augmentent et plus ça crée des endettements et donc plus de personnes qui ont besoin, qui sont vulnérables, si vous voulez, dans le sens où elles doivent absolument rembourser et donc qui sont prêtes au bout d'un moment à tout pour rembourser la dette qu'elles ont contractée. Et c'est d'autant plus sournois qu'elles ont l'impression que c'est elles-mêmes qui ont pris la décision de partir et donc de s'endetter. Donc quelque part, elles peuvent dire, je m'en veux qu'à moi-même. Vous voyez, parce que c'est moi qui avais pris cette décision à la base. Et c'est moi qui ai une dette à rembourser. On ne m'a pas mis un couteau sur la tempe en disant, tu dois me donner 10 000 euros et tu vas te prostituer toute ta vie pour ça. Ouais. Donc c'est là où... Donc du coup, c'est contre-intuitif, mais quand je vois effectivement dans des textes internationaux, il faut lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, c'est une contradiction terme à terme. Vous voyez, ça, c'est l'un ne va pas aider pour l'autre, au contraire. Donc, du coup, voilà, il faut bien distinguer les deux notions. En gros, trafic de migrants, les États cherchent à protéger des frontières. Traite des êtres humains, les États doivent protéger des personnes. Vous voyez, on n'est pas sur la même chose, quoi. Et donc, trafic de migrants, ça va peu impliquer les acteurs du social. Trafic d'êtres humains. Quand on doit protéger des personnes, et ben ça va vous impliquer. Donc, effectivement, est-ce que la traite, ça concerne que des étrangers? Bon, c'est toujours mes petites questions là. Ouais. Non? Ouais, alors effectivement, la traite, contrairement à une vision qui était un peu plus valable avant, mais qui était déjà fausse, eh bien, ça peut complètement concerner des personnes d'un même pays. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Français et des Françaises exploités en France. Ouais, effectivement. Alors, oui.
Ouais.
Ah, tout à fait, pour ce phénomène-là. Alors, pour du coup, enfin, m'occuper, voilà, de ce foyer, donc du coup être. Et on reçoit les demandes au niveau national. Donc, malheureusement, pour voir de très près ce phénomène-là, en fait, si on prend les. Il y a un office qui s'appelle l'OCRET, un office policier qui travaille sur la question de l'exploitation sexuelle. Si on prend les chiffres de l'OCRET, 80% des mineurs qui sont exploités sexuellement en France sont françaises. Donc, déjà, on est sur une majorité plus plus. Et c'est la même chose dans beaucoup de pays européens. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux Pays-Bas. Je pense que c'est le cas aussi en Belgique. Donc chez les mineurs, la plupart des personnes qui sont exploitées sont majoritairement ont la nationalité, notamment dans l'exploitation sexuelle. Et un phénomène plus inquiétant, c'est que maintenant 50% de ce qu'on va appeler la prostitution, eh bien, ça va concerner des mineurs. Ouais, ce qui est, alors qu'on n'est jamais, on n'a jamais eu des chiffres comme ça, si vous voulez. Avant, c'était 80-20. Alors, c'est pas évident parce que c'est des phénomènes cachés, tout ça. Mais là, on peut voir que ça a quand même changé de nature parce que le recours à des mineurs pour de la prostitution, c'est quelque chose qui est devenu commun pour des clients, puisque je vous dis, la moitié ont recours à des mineurs. Alors, à chaque fois, ils disent qu'ils ne savaient pas qu'elle était mineure, mais bon. Oui? Ouais. Alors moi, ce que j'ai pu observer, et c'est là où justement, bah c'est bien d'aborder cette notion, c'est que on a tendance à segmenter un petit peu. On va parler de contrainte à commettre des délits, d'exploitation sexuelle, d'exploitation de la mendicité. Et au début, si vous voulez, on a vu des petits réseaux qui exploitaient des jeunes filles françaises. Et quelque part, le principe qu'il y avait derrière, c'était que c'est plus facile de dealer des filles que de la drogue, pour faire simple. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas de groupe concurrent. Vous voyez, on voit bien que dans le trafic de drogue, la concurrence est très violente. C'est-à-dire, voilà, on a vraiment, vous avez un terrain, on a un groupe qui va essayer de vous piquer votre terrain et tout. Donc, c'est très dangereux, pas d'un point de vue pénal, mais d'un point de vue tout simplement de la concurrence avec d'autres groupes. Et en plus, il y a une mise de fonds. Il faut quand même acheter, voilà, on va acheter 250 grammes. Donc, il faut une mise de fonds, faut pouvoir investir. Et enfin, le flagrant délit est plus difficile quand on est sur l'exploitation sexuelle. Vous arrêtez quelqu'un qui a 250 grammes d'herbe dans sa voiture, il va pas dire, ah bah c'est bizarre et tout, je comprends pas. Vous arrêtez quelqu'un qui est avec une fille qui a 14 ans, 15 ans, bah, vous pouvez pas l'arrêter quoi. Ouais. Et on a le droit de se promener avec une fille de 14 ans, 15 ans dans sa voiture quoi. Donc vous voyez, du coup, c'est beaucoup plus compliqué en termes d'enquête. Donc pour ces raisons-là, effectivement, on a eu un glissement qui fait que sur des premières entrées en délinquance, donc l'expression est vraiment pas belle, hein, dealer des filles devenait plus accessible que dealer du produit. Et ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est qu'en fait, le trafic des stupes récupère cette exploitation. Alors parfois, ça va être des filles qui vont être vendues par des petits groupes à un réseau de trafic de stupes. Et ensuite, il y a toutes sortes de choses un peu sordides. Dans certains cas, pour des clients, c'est presque un goodies, vous voyez. Donc, des bons clients, eh bien, on leur offre une jeune fille. Mais de plus en plus, en fait, c'est pour ça que ce mot narcotrafic, bon, moi, je suis pas complètement fan, parce qu'en fait, c'est mal comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on part de gens qui ont fait un gros capital en vendant des produits stupéfiants, donc ça, c'est vrai. Par contre, ils étendent leurs activités. C'est, on va racketter des commerçants, on va développer une activité d'exploitation sexuelle et autres. Et dans les jeunes filles qu'on accueille à Koutcha, de plus en plus, on a des jeunes filles qui vous disent, alors elles parlent comme nous, qu'avec des sigles, donc on ne comprend rien. Donc elles disent, ouais, moi je suis MT. Alors, on dit, ouais, c'est quoi ça, MT, tout machin. Elles disent, je suis à mi-temps, ok. Et c'est quoi mi-temps? Et bien elles disent, voilà, une partie de la journée, je fais de l'escorting. Donc on comprend que c'est de l'exploitation sexuelle, parce que c'est toujours valorisé, hein. Et l'autre partie, en fait, elle va livrer, vous voyez, elle est jobeuse, donc elle va livrer du produit stupéfiant à un client, quoi. Donc, du coup, ça me permet voilà, de vous dire que, attention, on peut passer d'une forme d'exploitation à une autre, ou on peut être dans ce qu'on appelle de la polyexploitation, exploiter de deux façons, voire de trois façons différentes. C'est pour ça que, alors dans la présentation et dans l'organisation, on a bien scindé les formes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour chaque forme, mais merci pour votre question, parce que ça permet de nous mettre en garde sur le fait que une forme d'exploitation, parfois, n'est pas unique chez une même personne. Elle peut être exploitée en simultané, parfois au cours de... mais même en simultané, donc de deux façons différentes. Alors, un bon moyen, parce que ce n'est pas si évident. Alors, d'une part, bon, il y avait la question aussi que j'avais mis là sur est-ce que, à votre avis, donc, est-ce que pour la traite des êtres humains, est-ce qu'il faut que des grosses organisations criminelles ou pas ? Bon, on a un peu répondu à la question, donc ça a moins de saveur. Ouais. Effectivement, on a des personnes en France qui étaient impaires, qui étaient condamnées pour traite des êtres humains pour avoir fait mendier sa fille. Ça existe. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Une personne qui utilise un domestique chez elle, philippin, elle est condamnée pour traite des êtres humains. Donc en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait un réseau criminel. Donc ça, dans la législation, il ne faut pas voir tout en réseau. Est-ce que si c'est un ascendant, si c'est quelqu'un, voilà, un père, une mère, etc., un éducateur, est-ce que c'est toujours considéré comme de la traite ou une pratique culturelle ? Bon, je réponds un peu à la question, mais... Ouais. Ouais. À votre avis ? Alors oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la législation française, c'est pour ça que c'est plutôt bien fait, c'est que le fait que vous ayez c'est ce qu'on appelle l'abus d'autorité, c'est ça le terme. Si vous avez une autorité quelconque, parce que vous êtes son travailleur social, parce que vous êtes ses parents, parce que je ne sais quoi, eh bien en fait, c'est considéré comme une circonstance aggravante, ce qui fait que, vous voyez, sur les peines, eh bien ça va faire doubler la peine, quoi. Donc si suite à cette formation, vous dites qu'il faut qu'on se mette dans la traite des êtres humains parce que ça rapporte beaucoup plus que mon salaire actuel, alors ça, c'est la deuxième partie est vraie, mais les risques sont plus importants. Ouais. Donc, parce que vous avez un ascendant. Donc, vous partez avec un temps d'avance, vous voyez, sur les autres. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas bien. OK, donc du coup, les histoires que ce soit des parents et tout, en fait, ça ne marche pas. Alors que c'est vraiment quelque chose, souvent... Alors, quand on le dit comme ça, ça paraît trivial. Mais le fait que ce soit des parents et tout, quelquefois, on se dit, bon, du coup, ce n'est pas de la traite, c'est autre chose, quoi. Donc, ouais, si on continue sur les petits... effectivement, sur... alors, peut-être que... Bon, je ne vais pas en faire 40 000 comme ça, mais... ce qui est important, c'est que, à votre avis, quelqu'un qui va taper sa femme, est-ce que c'est de la traite des êtres humains ? Puis après, on va vraiment terminer de circonscrire notre objet, mais... Ouais. Non, et pourquoi ? Ouais, alors, ça dépend si c'est pour lui faire la vaisselle. Alors, effectivement, il y a quelque chose là. Ouais, ouais. Oui ? Voilà, exactement. Alors, pour identifier vous, plus que la définition juridique, voilà, on s'y perd un petit peu, normal, vous n'êtes pas juriste, moi non plus, enfin, peut-être que certains le sont, mais ce n'est pas mon cas. C'est, en fait, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça rapporte de l'argent ou pas ? Ou si ça ne rapporte pas d'argent, est-ce que ça me permet d'obtenir des services où je devrais payer, d'une certaine façon, pour avoir ces services ? Vous voyez, donc... si je tape ma femme, a priori, ça ne va pas me rapporter de l'argent. Enfin, je ne suis pas au courant. Donc là, ça ne semble pas être de la traite des êtres humains. C'est une autre infraction, mais ce n'est pas de la traite des êtres humains. Par contre, si je tape ma femme, effectivement, pour lui demander de faire le ménage chez les voisins, dans le foyer où j'habite, etc., et que les gens soit me donnent l'argent, soit même ne me donnent pas d'argent, mais elle s'occupe de tout, ça, c'est considéré comme de la traite des êtres humains. Donc, il y a toujours cette notion, ce n'est pas du sadisme en fait, il y a cette notion que ça doit vous rapporter à l'exploiteur, vous voyez ? Donc c'est ça qui va vous permettre d'identifier. Quand on a des migrants qui arrivent de certains pays, on sait que par exemple, s'ils viennent de Guinée, du Côte d'Ivoire, etc., il n'y a pas de voyage gratuit. Vous voyez, la route, elle n'a pas été gratuite. Donc le fait de dire, il y a quelqu'un qui était venu avec moi, et puis après qui a disparu sur le banc, et puis il ne m'a jamais rien demandé, là, ça n'existe pas. Voilà, la personne ne veut pas vous le dire, ok, c'est pas grave, mais ça n'existe pas. Par contre, la question qu'il faut vous poser, du coup, c'est quoi? Si une personne vous dit, voilà, je suis venu, j'ai rien payé, on va dire, dès qu'on est sur l'Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, on peut réussir à passer gratuitement. Mais dès qu'on est en Afrique subsaharienne, en Afghanistan, etc., c'est pas possible. La route aura forcément un coût financier, hein, je parle juste uniquement. Et à votre avis, du coup, quelle est la question qu'il faut se poser pour se dire, qu'est-ce que je dois rechercher? Alors, comment elle va rembourser, ça, c'est à qui, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi, du coup, on l'a fait venir. Qui est le sponsor dans l'histoire? Vous voyez? Et ça, c'est une question qu'on ne pose jamais. En fait, si c'était coûteux et que la personne n'avait pas d'argent, donc il y a bien quelqu'un qui a avancé l'argent. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Et quel est le but de cette personne? Pourquoi elle lui a avancé de l'argent? Et c'est ça qu'il faut creuser. Vous voyez, et souvent, bah là, on va voir des affaires de, on va découvrir l'exploitation de la traite qui n'est pas très loin. Mais on fait rarement venir quelqu'un. Alors, ça peut être dans votre cercle familial proche et tout, bien sûr, il y a de la générosité. Mais si on voit que les liens sont assez ténus, voilà, faut se méfier. Faut aussi se méfier de la diaspora qu'on a tendance un peu à, comment on pourrait dire. Avoir de façon très, on va y mettre un peu un idéal de communauté, de sympathie et tout. La diaspora en général, c'est sympa 15 jours. Après, on va vous faire comprendre quand même que va falloir que vous pliez à certaines règles. Et si on a dû payer pour vous, il va falloir que vous remboursiez, quoi. Donc attention de ne pas mythifier des idéaux qu'on aimerait bien avoir, ok, mais qui ne sont pas forcément toujours le cas, quoi. Et même au sein de la famille, hein, c'est pas forcément. Alors, bien sûr, on a les deux, si vous voulez, mais faut pas se dire, tiens, il n'y a pas de sujet parce que c'est son cousin qui l'a fait venir. C'est juste ça qu'il faut éviter. Donc, oui, alors ça, je vais pas revenir, mais. Là où je voulais introduire un petit peu de complexité en prenant un exemple plus neutre, c'est que parfois, donc on a les formes qui sont bien identifiées, là, qui sont mises ici. Ok, exploitation sexuelle, ça vous avez bien compris, par le travail, mendicité, domestique, etc. etc. Donc ça, sauf que dans les faits, bien sûr, ce n'est pas aussi clair. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps pour décortiquer toutes les situations. Et notamment, alors si on prend l'exemple des fameux bidonvilles, mais en fait, on va le retrouver dans d'autres situations d'hébergement. C'est assez évident dans les bidonvilles. C'est que l'emprise, elle ne commence pas nécessairement au pays, vous voyez, contrairement à ce que peut induire la définition juridique, mais c'est que ce n'est pas toujours un recrutement au pays. Ce qu'on a régulièrement dans la plupart des bidonvilles en France, et malheureusement ceux qui sont en tout cas autour de Montpellier n'échappent pas à la règle, c'est qu'en fait on va avoir des personnes, bon, pour prendre un truc très schématique, hein, on va avoir des personnes okay, qui voient que leur voisin fait un étage de plus à sa maison, un toit tout rouge alors qu'il galère et tout, et il se dit, finalement, lui, il était un peu limité et tout ça. C'est bizarre, il va en France, il a gagné beaucoup d'argent. Moi, qui suis beaucoup plus débrouillard, beaucoup plus intelligent, je vais faire la même chose parce que je sais que si je reste ici, finalement, je suis dans une forme de déterminisme social. C'est-à-dire que je ne vais pas trouver de travail et donc je ne vais pas pouvoir améliorer mes conditions de vie. Donc, ils partent. Ils partent souvent dans ces villages-là. Il y a un microbus, comme on dit en roumain, donc une espèce de petit van qui, coup de bol, va vous amener de là où vous êtes, de votre village, à un endroit. Ok, ils arrivent en France. Pour le moment, on va dire si la personne avait les moyens de se payer avec sa famille le billet de bus, on n'a pas donné, on n'a pas demandé de l'argent. Il n'y a pas eu d'histoire d'exploitation, rien du tout. On n'est pas sur des recruteurs qui veulent absolument exploiter les personnes. Donc on peut se dire, n'y a pas de problème, c'est safe. Et puis, ils arrivent on va dire à Montpellier, et là, on va leur dire, bah, où est-ce que tu dors? Et la personne, c'est pas vraiment où est-ce qu'elle va dormir. Enfin, elle n'avait pas pensé à cette partie-là. Donc elle est libre d'aller à l'hôtel, d'aller chez un proche, elle est libre de faire ce qu'elle veut en fait. Donc là, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de traite qui s'est mis en place. Sauf qu'elle ne sait pas où aller. Et on lui dit, bah, si tu veux, il y a tel bidonville où il y a des gens de ton village où tu peux aller. Et donc comme elle n'a pas tellement d'autres solutions, et bah, du coup, elle va aller, si vous voulez, dans ce bidonville. Et puis là, alors ça dépend des bidonvilles, mais certains en demandent un loyer, d'autres juste un droit d'entrée, mais n'empêche qu'il faut payer quand même. Et donc on leur dit, ben en fait, si tu veux t'installer dans ce bidonville, l'entrée c'est 200 euros. Alors ça n'appartient pas à la personne qui tient le bidonville, hein, c'est un terrain souvent qui appartient à un propriétaire, l'État, le département, un propriétaire privé, enfin peu importe. Mais les personnes qui ont trouvé en premier ce bidonville, on va dire, ou qui sont là depuis plus longtemps, certains pionniers, ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire et donc ils proposent exactement comme un marchand de sommeil. Donc c'est là où on va voir que c'est toujours le même phénomène, quelles que soient les populations. On va leur dire, bah, en fait, tu veux t'installer ici, c'est temps. Si tu ne veux pas t'installer, on va pas te couper un bras parce que tu ne veux pas t'installer ici, tu fais ce que tu veux. Donc on n'est pas, vous voyez, c'est pas forcément toujours coercitif. Donc la personne ne connaissant pas Montpellier et ne voyant pas où c'est. Eh bien, enfin, voyons pas où aller. En plus, souvent, si elle arrive avec des enfants, bah, faut quand même trouver rapidement un toit. Vous voyez, c'est pas si simple. Eh bien, elle va s'installer donc dans ce bidonville. Donc, elle va payer 200 euros. Et puis, on lui dit, bah, en fait, dans ce bidonville, bah, faudrait que tu construises une cabane ou tu prennes une caravane. Ah bah oui, j'avais pas pensé à ça parce que là, c'était juste pour rentrer. Et donc, il y a des gars, si tu veux, qui peuvent te construire une cabane en bois et tout ça. Donc, bah, du coup, elle doit payer encore, vous voyez, des personnes qui vont construire une cabane. Et là-dedans, la personne en Roumanie n'était pas endettée. Elle n'est pas tombée sur des gens qui l'ont recrutée, mais elle se retrouve finalement avec, elle a payé 200 euros sa caravane toute pourrie, 200 euros son droit d'entrée, avec 400 euros à rembourser. Juste pour se loger, vous voyez. Et là, elle ne sait pas trop comment faire. Et donc, on va lui dire, mais en fait, elle va dire, mais comment je peux faire pour rembourser? Parce qu'il peut y avoir effectivement une forme d'usure, c'est-à-dire que dans un mois, il faut que tu me rembourses 200 euros. Par contre, si dans 2 mois, il faudrait que tu me rembourses 300 euros, etc. Vous voyez, ça, il va y avoir un taux d'intérêt. Et là, du coup, elle n'a pas trop le temps de réfléchir. Et là, on revient sur ces processus d'automatisation, on se sent comme un robot. Et donc, on va avoir une personne qui ne sait pas comment faire, elle ne parle pas la langue, et finalement, ce qui lui semble le plus accessible, c'est de faire, on va dire, mendier, enfin, il peut y avoir plein d'autres choses, hein, de faire mendier ses enfants avec elle. Pourquoi ses enfants avec elle? Parce que si on est quatre à mendier, ça va rapporter plus que si on est une seule personne, vous voyez. Et comme il faut rembourser, sinon la dette va augmenter, eh bien, autant avoir quatre bras, enfin, quatre bras, huit bras. Et en fait, on se retrouve avec une famille qui, en Roumanie, n'a jamais fait mendier ses enfants, de près ou de loin, qui, du fait des circonstances et du besoin de rembourser rapidement pour éviter d'avoir une somme trop importante à rembourser, va en fait se mettre à faire mendier ses enfants et à mendier aussi. Et nous, comme on les voit, on dit, tiens, c'est bizarre et tout, on se dit, ah ouais, mais c'est des Roms, c'est normal. Donc on se dit, c'est normal, alors que les gens dans leur village n'ont jamais mendié de leur vie, quoi. Donc, vous voyez tout ce que ça crée, quoi. Et en plus, personne ne lui a dit, tu vas mendier. On ne peut pas dire, voilà, il y a quelqu'un qui lui tape dessus si elle ne mendie pas. En fait, si elle décide de voler dans un magasin et rembourser l'argent, c'est la même chose. Ce qu'ils veulent juste, c'est récupérer l'argent qu'ils ont donné avec un taux d'usure. Donc, c'est elle qui décide de faire mendier ses enfants. Ce n'est pas un réseau. Donc vous voyez, dès qu'on rentre un peu dans ces mécanismes, et ça c'est pareil pour toutes les formes d'habitat, c'est-à-dire qu'en fait l'accès à un habitat, notamment pour des populations précaires, va créer des formes de traite. Donc ce n'est pas toujours un recrutement au pays et avec des gros trafiquants, etc. Ça existe, vous voyez les Nigérianes c'est un peu ça, elles sont recrutées là-bas, il y a une cérémonie, le juju, etc. Et puis après on va les exploiter. Mais dans beaucoup de cas, cette forme de « depuis le pays, ils ont été recrutés pour être exploités », elle n'est pas forcément valable, quoi. On parlait des livreurs qui peuvent tomber effectivement dans des formes d'emprise et de traite. Il y a plusieurs enquêtes pour traite des êtres humains en France sur des livreurs Uber, Deliveroo et compagnie. Souvent, c'est quoi? C'est des mineurs non accompagnés, ils n'ont pas été pris en charge par l'aide sociale en France, ou ils ont été pris en charge, mais à 18 ans, la préfecture n'a pas délivré de papier. Ils n'ont pas vraiment une diaspora sur laquelle s'appuyer pour trouver un travail. Il n'y a que ce travail qui est accessible. Donc, ils sous-louent un compte à un gars voilà, qui a un compte Uber parce qu'il n'a pas les papiers et tout. Donc, déjà, il doit redonner une partie de son argent. Et il faut bien qu'il dorme quelque part. Il va payer son squat. Vous voyez, donc on va être exactement sur la même chose. Alors, là, comme. Si vous voulez, pénalement, ce n'est pas le fait d'être livreur. Ça fait de mal à personne, donc c'est des situations qu'on va minimiser parce que ça ne menace pas l'ordre public, au contraire, c'est un service. Mais n'empêche que on voit bien la mécanique qui fait que les personnes se retrouvent finalement exploitées et se sont mises là-dedans toutes seules d'une certaine façon. Ouais. Oui? Sur le cas des livreurs ou sur le cas des...
Moi, je pensais plus aux Roumains, mais les livreurs aussi,
c'est... Oui, alors je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans, mais il faut que je vois peut-être à la toute fin. Enfin, on a un cas, justement, je le sors souvent... je ne sais pas si je l'ai ici, bon, ce n'est pas très grave. Alors, on ne va pas voir tout ça, mais je vous rassure. Mince. Ouais. Bon, je ne sais pas où est-ce que... Où est-ce qu'il est mon super cas? Bon, non, malheureusement, je ne l'ai pas. Alors, bon, ce n'est pas très grave. Mais si vous voulez, on a des cas, effectivement, de personnes qui ont été condamnées pour mendicité de leurs enfants en Seine-Saint-Denis. Parce qu'à chaque fois que je discute avec des procs ou autres, ils disent, bon, vraiment, on a autre chose à faire que de s'occuper de ça. Et je leur dis, bah, regardez, moi, je vais vous sortir un cas de Seine-Saint-Denis où je pense qu'ils ont aussi d'autres problématiques. Et pourtant, ça existe, ouais. Après, bien sûr, c'est là où, du coup, parce que oui, je vois que l'heure tourne, c'est que, en fait, vous faites remonter les situations, mais bien sûr, c'est pas vous qui allez qualifier les choses. Et quand on parle de traite des êtres humains, le magistrat, lui, va évaluer un degré. On ne va pas condamner à 15 ans d'emprisonnement quelqu'un qui fait mendier ses enfants, vous voyez. Donc, il ne faut pas non plus le voir comme si vous étiez complice d'un système hyper répressif et autre, quoi. Ça, c'est vraiment un peu au magistrat d'évaluer. Et bien sûr qu'il y a une proportionnalité en fonction, si vous voulez, de la gravité. Et alors, là où je voulais revenir, alors bon, excusez-moi, je vais... Ça fait mal aux yeux, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Bah, on peut prendre un cas assez simple, c'est que dans la complexité des situations, donc on voit que finalement, on peut tomber quelque part dans la traite ou l'exploitation de ses enfants sans à la base être un gros criminel et pas aimer ses enfants. Donc on voit bien qu'en fait, c'est des mécanismes sournois qui font qu'il y a un endettement et tout. Mais c'est important de décrypter parce que c'est des choses qu'on peut expliquer après à un magistrat ou à des enquêteurs, vous voyez. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la personne. Alors, par exemple, en Roumanie, justement, sur la Kamata, eh bien, maintenant, c'est rentré dans le code pénal, justement, pour poursuivre les Kamatar, parce que c'était en fait les usuriers. Donc, c'était un peu un trou dans la raquette, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que, en fait, c'était les parents qui étaient condamnés, qui étaient en fait eux-mêmes endettés. Et donc, sous forme de servitude pour dette, et on n'arrivait pas à aller jusqu'à l'usurier. Donc maintenant, ça a été introduit dans le code pénal. En France, il y a besoin d'expliquer le système, bien sûr. C'est là où c'est pour ça que c'est important de faire des groupes de travail, parce qu'en situation d'urgence, personne ne réagit bien. Vous appelez en catastrophe telle magistrate qui dit « Ah mais non, mais attendez, on n'a pas le temps, machin », ou alors l'ASE, tout d'un coup, vous liez un truc un peu fin, ils envoient plein de policiers, enfin c'est n'importe quoi. Donc, si ce n'est pas travaillé avant, on va travailler sur des scénarios, vous voyez. Et puis, on se dit « Bah tiens, sur tel scénario, on va avoir tel type d'intervention graduée avec des paliers et tout. » Ça, c'est efficace. Par contre, si soit il ne se passe rien, soit la réponse est totalement disproportionnée, finalement, personne ne va s'y retrouver, quoi. Et puis, il faut aussi réfléchir comment protéger les personnes qui sont sur le terrain, qui ont une accroche. Parce que, bien sûr, si vous avez un lien avec la famille et que le fait de faire tel et tel IP, après, ça vous empêche de travailler, bah, c'est pas bon. Donc après, ça se travaille, finalement, qui va faire une IP, quoi. Il y a des réflexions au sein, par exemple, de la MIPROV. Donc, en gros, c'est la mission interministérielle qui est en charge de mettre en place la politique de lutte contre la traite. Pour certaines affaires, c'est eux qui vont signaler, vous voyez, pour éviter de griller, entre guillemets, les acteurs de terrain. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, bah, c'est simple, j'appuie sur un bouton, je fais une IP. Mais l'idée, c'est de se dire, on fait remonter les choses, mais de façon construite, tout en réfléchissant à comment préserver ce lien avec le terrain, notamment pour les acteurs qui sont en première ligne, et donc pas les exposer à ça. Mais pas que vous soyez aussi obligé d'être dans une forme d'arbitrage sans arrêt, où on va le faire, on ne va pas le faire. Et le troisième un peu étage de la fusée que je voulais introduire, c'est que, alors ce matin là, on a une démonstration qui est que la plupart des victimes, des personnes sous emprise, ne sont pas conscientes d'être victimes. Et là, du coup, c'est un peu compliqué, parce que si les personnes ne se reconnaissent pas victimes, et que vous vous dites « elle est victime », et que la personne dit « bah non, c'est n'importe quoi, non, moi je ne suis pas du tout victime, je ne sais pas qui est cette dame qui dit que je suis victime » et tout ça. Donc, comment peut-on travailler? Alors que nous, on est habitué à travailler avec la parole des gens, comment peut-on travailler à partir du moment où les victimes ne vont pas se reconnaître comme victimes ou vont toujours nier le fait qu'elles sont victimes? Même si elles en sont conscientes, elles peuvent le nier aussi. Oui ? Oui, alors ça, cette forme d'accueil un peu inconditionnelle, et puis ça tout à fait, mais on peut avoir des moments, voilà, je sais pas, on a une jeune fille, alors je vous donne des exemples extrêmes, hein, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais voilà, imaginons on a une jeune fille qui a 12 ans, qui est prise dans un réseau d'exploitation sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'elle nous dise « je vais être protégée » ou pas? Ouais. Enfin, tout ça pour dire, on peut pas toujours malheureusement attendre, vous voyez, dans ces phénomènes de traite. Même si j'entends ce que vous dites, hein, l'accroche, effectivement, ça, parfois c'est long et il faut, voilà, l'accroche est très important. Mais c'est pas toujours possible. De toute façon, c'est vous qui allez les voir. Donc, vous êtes les mieux placés.
Et en même temps, ils vont avoir suffisamment de budget pour pouvoir objectiver, réfléchir à la stratégie d'intervention, savoir qui dans le système d'intervenant autour de la personne, du ménage, de la famille, est le plus pertinent à lui apporter quelque chose. Parfois, effectivement, on va préserver une relation d'alliance et on va avoir stratégiquement un partenaire qui est aussi auprès de la situation qui lui va laisser cette responsabilité de l'équipe et lui donner du sens. Et vraiment, la vie aussi de ces journées, pas que le salut-là, aussi les ateliers, la création d'un réseau, c'est finalement de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer ensemble un espace dans lequel on met les choses en discussion pour à la fois qualifier, objectiver, réfléchir et aussi agir quand c'est nécessaire d'agir, sans chercher de renvoi vers l'extérieur, de va faire toi ce que moi j'arrive pas à faire, parce que moi comme ça je vais pouvoir continuer à travailler avec la famille. C'est facile aussi des fois d'attendre de l'extérieur d'intervention que j'arrive pas à faire.
Oui, complètement. Alors, si je rajoute un élément, voilà, de complexité, on va dire, c'est que toujours dans mon obsession que vous deveniez tous des trafiquants, donc imaginons que vous passez de l'autre côté de la barrière, mais c'est souvent comme ça qu'on prend les logiques en essayant de se placer de l'autre côté. En fait, voilà, si donc demain, vous voulez absolument exploiter des personnes de votre centre où vous êtes, etc. Après, j'arrête avec ce truc-là, mais c'est important de comprendre. Si ces personnes, quand elles se font interpeller ou quand elles rencontrent un éducateur ou quand elles se font interpeller par la police, quoi qu'elles fassent, elles disent, en fait, c'est Margot qui travaille au CHRS qui m'a demandé de voler dans les magasins pour elle. Et bien, en fait, vous ne pouvez pas l'exploiter. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais exploiter une personne dont on ne contrôle pas entièrement sa parole. Sinon, c'est mort. Vous voyez, elle vous dénonce tout de suite l'exploitation, point. Bah, du coup, la police vient voir et dit « c'est toi Margot, ok, bah, merci, hop, voilà, l'enquête est bouclée. » Donc, si vous voulez, on ne pourra pas attendre d'une victime, même sans aller jusqu'au mécanisme de l'emprise, mais par nature, si vous voulez, on peut exploiter que des personnes dont on contrôle entièrement la parole. Parce que sinon, en fait, les enquêtes, elles seraient tout de suite bouclées. Alors, il y a plein de moyens de contrôler la parole. Effectivement, il y a les menaces, il y a toutes sortes de formes d'emprise, parfois religieuses, parfois... Enfin, là, il y a la créativité humaine est sans limite là-dessus, sur comment contrôler la parole d'une personne. L'emprise en fait partie, ce n'est pas la seule. Mais n'empêche que, d'un point de vue des personnes qui veulent exploiter d'autres personnes, s'il n'y a pas un contrôle total de la parole, eh bien du coup, on ne peut pas exploiter. Ce qui fait que moi, je vais régulièrement en prison pour faire des entretiens avec des mineurs dont on pense qu'ils sont victimes de traite, mais qui n'ont pas été repérés, si vous voulez, par l'institution. Et en fait, voilà, quand il y a des mineurs qui me disent « je suis victime de traite », c'est là où j'ai le plus de doutes. Je me dis « c'est bizarre, pourquoi il me dit ça ?» Vous voyez ? Donc du coup, on ne peut pas attendre que la personne soit prête. J'entends, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Enfin, c'est très important d'être un repère, de laisser la porte ouverte, etc. Mais c'est là où c'est une infraction criminelle. Donc bien sûr, il y a des stratégies criminelles qui sont derrière. Et la stratégie, c'est que, en fait, la plupart du temps, les personnes ne vont pas pouvoir parler. En tout cas, lors d'une interpellation, rapidement, au bout d'un certain temps, vous gagnez leur confiance, elles vont vous dire des choses et vous l'observez. Mais comme ça, de prime abord, il y a peu de possibilités. Il y a des personnes qui sont suivies par personne. Enfin voilà, justement, ouais, pas très très loin d'ici, il y a un groupe qui utilise des jeunes filles pickpocket tout en des cambriolages. En fait, il n'y a parfois aucune association qui les suit, et parfois c'est juste une interpellation, les éducateurs de la PJJ les voient, elles vont dire, voilà, on habite chez une grand-mère dans une caravane, pas de nom, pas d'adresse, rien, et on se dit, bon, bah, finalement, on ne peut pas faire grand-chose, et on les relâche, et les relâcher, bah, elles sont réutilisées par le réseau. Donc là, on aura très peu de temps, on ne sait plus où elles sont, elles tournent dans toute la France. Donc, il y a des moments où, en fait, on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de créer une relation de confiance. On n'a plus le temps. Et donc, il faut pouvoir repérer et agir assez rapidement sur ces situations. Sinon, on passe à côté. Ouais, exactement. Et ben justement, c'est le mot qu'il fallait, des indices. Alors, bon, on appelle ça des indicateurs. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez, vous, dans le travail social. Mais c'est la seule façon. On doit travailler avec des indicateurs. Parce qu'on ne peut pas travailler sur le discours des gens. On voit bien que le discours va être biaisé, pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Les personnes ne peuvent pas s'auto-identifier comme victimes. Certaines vont mettre 10 ans, 15 ans à parler. Enfin, vous voyez, dans les monographies qui ont été présentées, bah, souvent ça sort à 40 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc vous n'allez pas dire bah, qu'est-ce qu'on fait en attendant, quoi. Donc du coup, on va tenter de travailler, alors là c'est vraiment du pratico-pratique, sur des indicateurs. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple de la mendicité forcée. Je vous donne une situation. Vraiment la situation la plus triviale que tout le monde a vue, je pense vraiment quelque part. On a, alors j'ai utilisé volontairement, voilà, quelque chose de très basique. Voilà, on a un Rome qui est assez petit, il a l'air d'avoir entre 8 et 10 ans. Vous voyez, c'est pas marqué sur son front, mais on voit qu'il a à peu près cet âge-là. Voilà, qui est devant une boulangerie. En tout cas, vous le croisez le matin quand vous allez au travail. Il est 8 h du matin. Quand vous revenez du travail, il est 17 h, vous le croisez à nouveau. Voilà, il est toujours habillé un peu de la même façon. Sur cette situation-là, quel type d'indicateur on pourrait mettre? Comment? Alors effectivement, on peut mettre là où il se trouve. Ouais. Ouais, alors là, bon, vous mettez entre 8 et 10 ans. Ok. Alors oui, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Alors il y a la fréquence, mais juste avant, j'ai entendu autre chose. Oui, alors son activité, effectivement, il mendie. Ok. Alors la fréquence horaire, point très important. Qu'est-ce que vous entendez par la fréquence horaire? L'amplitude horaire, voilà. Alors là, déjà, on devient sur. Là, en fait, si vous voulez un indicateur, c'est quelque chose qui est un élément totalement objectivé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible. Ouais. Il a entre 8 et 10 ans, il n'a pas 25 ans. OK. Donc, on n'est pas sûr de l'année près. Mais voilà. L'amplitude horaire, donc là, si vous le voyez de 8 h du matin à 17 h, alors, je n'ai pas fait le calcul. Peut-être que vous vous trompez. Peut-être qu'en fait, à 8 h du matin, il est là. À 9 h, il va à l'école. Il revient à 16 h et il remendie. Mais on ne va jamais vous demander de faire l'enquête. Vous n'êtes pas des enquêteurs. Donc, c'est là où il ne faut pas. Par contre, vous, dans votre observation basique là, de citoyen, vous voyez, ce n'est même pas une marronne ni rien. En tout cas, vous le voyez, il est là de 8 h à 17 h. Donc, ça fait pendant 11 h. OK. Donc, du coup, on a. Entre guillemets, 11 heures de travail. Enfin, on va considérer ça comme un travail. Ensuite, qu'est-ce que. Alors, vous aviez parlé de l'âge, mais qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Oui, alors, du coup, est-ce qu'il y a un adulte autour ou pas? Bon, là, encore une fois, vous ne faites pas l'enquête. Bon, vous avez regardé un peu, mais vous n'avez eu personne. Donc, pour vous, il est seul, même si probablement il y a des parents, mais. Donc, mais ça va rajouter quand même dans la situation de danger. Effectivement, on a un enfant entre 8 et 10 ans qui est seul dans la rue. Bon, il peut se passer toutes sortes de choses. Il devrait être à l'école. Donc, il est déscolarisé. Et est-ce que vous voyez un autre point, par exemple? Ouais, alors ça c'est pas évident parce que là on est sur de l'interprétation. Ouais. Ouais, alors effectivement, est-ce que par exemple sa tenue, elle est appropriée par rapport au temps qu'il fait dehors? Effectivement, s'il est en t-shirt et qu'il y a un vent froid comme aujourd'hui, bon, on va se dire c'est pas top. Et donc, si vous voulez, alors là ça paraît très trivial, mais en fait cette histoire d'indicateur. Ça a plusieurs vertus. La première, c'est que Vous voyez, si vous dites à un magistrat, alors j'ai rien contre les magistrats, au contraire, mais si vous lui dites ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes, il y a un Rom qui mendie devant une boulangerie. Bon, on va dire OK, ouais, c'est pas la première fois, voilà, ça sera pas la dernière, d'accord. Si vous dites, on a un enfant qui est déscolarisé, qui travaille 10 heures par jour, voyez, qui est sans référent parental à proximité, dont en plus sa façon d'être habillé fait que voilà, elle n'est pas du tout adaptée par rapport au climat qu'il y a, c'est quand même très difficile pour le même professionnel de dire bah non, en fait, on s'en fout. Voyez. Et au sein d'un service, et c'est ce que tu disais, Elsa, chacun peut. Quand il y a une situation comme ça, en fait, chacun vient avec son histoire. Moi, j'ai vu un reportage, en fait, ils font ça pour aider leur famille. Moi, j'ai vu un autre reportage sur M6, mais non, c'est le roi des Roms qui les fait tous mendier, ils sont tous victimes de traite, c'est horrible, etc. Donc, chacun il va avec son truc, sa sensibilité, ce qu'il a regardé, enfin, ses connaissances. Ça dure 6 mois, personne n'est d'accord, on n'ose plus parler du sujet et on passe à autre chose, vous voyez. Alors que l'intérêt des indicateurs, c'est que là, en fait, on peut pas dire si Mandy n'est pas à l'école. Peut-être qu'on sera trompé, mais n'empêche que là, si on est en rue, il n'est pas à l'école. Là, il n'y a pas d'interprétation. Vous avez beau avoir vu 14 reportages, enquête action et compagnie, vous voyez, quelle que soit, si vous voulez, votre histoire, rien, enfin, c'est le plus objectif possible. En revanche, un seul indicateur ne veut rien dire. Une fille hyper apprêtée dans un CHRS, c'est pas suffisant pour dire « Oh, attention, il y a risque de prostitution ». Non. C'est toujours un faisceau d'indicateurs. On n'en prend pas qu'un seul, c'est trop léger. Voyez, donc, alors, là, voilà, sur... donc, vous voyez, on peut... Alors, moi, je suis... je trouve ce qui est très important, c'est que chaque service construise en fonction des situations qu'il a, parce que, bon, là, j'ai pris un exemple très... une liste d'indicateurs. Parce qu'en fait, si on met des indicateurs pour des indicateurs généraux, ça ne marche jamais. Parce que c'est jamais codifié de la même façon, quoi. Vous voyez, ça ne va pas être la même chose, par exemple, sur un jeune d'Afrique du Nord qui ne veut pas donner les coordonnées de ses parents qui sont restés en Algérie, ou un jeune, par exemple, une jeune fille bosniaque qui veut donner pas de coordonnées de ses parents, on ne peut pas l'interpréter de la même façon. Donc, en fait, pour chaque groupe qui est susceptible d'être exploité, il faut construire une liste d'indicateurs. Et ça, c'est un travail qui se fait, voilà, au sein d'un service, vous voyez. Dans un cas, par exemple, le jeune est parti, voilà, il était censé travailler, réussir, etc. Il envoie des photos à ses parents comme quoi tout se passe bien et réussit. Et donc, c'est la honte absolue, le fait de ne pas réussir. Mais en fait, la famille pourrait être un soutien. Dans l'autre cas, on est plus sur une exploitation de type clanique où la famille peut être impliquée. Donc du coup, vous voyez, ça ne va pas du tout être... c'est juste pour vous dire que des mêmes constats ne vont pas forcément signifier les mêmes choses. Oui.
Moi, j'ai une question. Alors, je suis désolée, c'est la pratique. À l'équipe mobile, on a aussi souvent le travail des enfants par le biais d'interprétariat, puisqu'on n'a pas d'enveloppe, on n'a pas de budget. Qui sont rémunérés les parents pour le travail de l'enfant de traduction de l'interprétariat. Donc nous maintenant, on s'en est aperçu, on a tout de suite arrêté ça et on interdit l'appel, on exige qu'il y ait un travail d'interprétariat professionnel qui puisse être là parce que les enfants entendent le parcours des îles, entendent les difficultés médicales, ils sont au cœur de tous les problèmes. Hein. Et on s'est aperçu que c'était quand même souvent, quand ils disent on va appeler quelqu'un de
oui, alors ça, c'est-à-dire que bon, clairement c'est un dysfonctionnement. Enfin, j'entends que ok, on n'a pas d'interprète et tout ça, mais La question des interprètes, alors on le voit très bien dans l'asile, hein, pour les gens qui travaillent dans le champ de l'asile, il y a des interprètes très bien, il y en a, c'est vraiment problématique. Alors même sans, alors effectivement, le fait de, entre guillemets, parentaliser ou de surresponsabiliser les enfants, c'est vraiment un problème, et du coup, c'est pas du tout adapté. Bien sûr que parfois, l'interprète, enfin, moi je vois ce que je suis aussi quelques expertises judiciaires, si vous voulez, donc on travaille sur des affaires. Comme ça, de traite, et parfois il y a des gens qui parlent une langue dont il y a peu de locuteurs. Voyez, des Géorgiens, etc. Et donc peu de locuteurs dans la ville où ils sont. Et en fait, ils ont très peur de tomber sur quelqu'un du réseau qui va traduire. Donc, ça, c'est. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, en plus, c'était pas très très loin d'ici, c'était à Nîmes, où on avait. Alors maintenant, il y a un peu prescription, mais on avait des jeunes femmes roumaines. Qui était voilà donc qui était exploité sexuellement et en fait les femmes en gros sont décidées à aller au commissariat quoi. Et quand elles arrivent au commissariat elles deviennent mutiques et sur le moment nous on avait appelé le commissariat en disant bah voilà machin elles sont prêtes donc et là le commissariat dit c'est vraiment n'importe quoi et tout nous on prépare une équipe elles veulent rien dire et tout ça et du coup ils les ont placées en CRA bon c'était bon, c'est pas toujours. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on comprend en fait? C'est que quand elles sont arrivées au commissariat, ils avaient recruté. Alors, une dame qui était assistante sociale, là c'était aussi des Roumaines, qui étaient Roumaines, et en fait qui était la belle-sœur du mec qui les exploitait. Donc, bien sûr, quand elles ont vu la fille, elles ont compris, puisqu'elles la connaissaient, qu'en fait, bah, elles savaient que la fille allait dire qu'elles ont dénoncé. Donc forcément, elles sont devenues mutiques, vous voyez. Donc c'est pour ça que non, il ne faut pas du tout négliger cette question de l'interprétariat. Parce que, et même, voilà, enfin, effectivement, moi, je parle d'autres langues, et ça m'est déjà arrivé, même sur des traducteurs assermentés, donc par la justice, d'avoir le cas où la juge dit, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui te demande de voler? Et l'interprète dit, pourquoi tu voles, tu nous fais honte. Donc même s'il n'avait rien à voir avec le réseau, il se sentait ambassadeur un peu de son pays, ou en tout cas il estimait, et ça c'est un sentiment assez répandu, que ces personnes donnaient une très mauvaise image de leur pays, et donc il leur faisait une leçon de morale, quoi. Ce qui fait que forcément, l'autre il se dit, bah, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc il va pas dire. C'est pour ça que. Il y a des interprètes qui sont super, qui sont géniaux. Si vous en trouvez un, gardez-le. Et passez toujours un peu avec les mêmes personnes, toujours les mêmes interprètes. C'est vraiment important d'avoir des interprètes fiables. Voilà. Et parfois, les personnes vont préférer avoir une autre langue. Vous voyez, j'ai déjà vu des géorgiennes qui avaient très peur de tomber sur des géorgiens en se disant, ben voilà, il y a un réseau. Par exemple, à Montpellier, effectivement, il y a un groupe de géorgiens bon, qui est. Pas mal dans les cambriolages et compagnie, mais alors elles se disent, bah mince, on peut se retrouver là-dedans. Et donc elles vont dire, en fait, moi je suis un interprète en russe. C'est pas grave, elles parlent très bien le russe. Donc, mais parce qu'elles se disent, comme ça, j'ai moins de probabilité de tomber sur quelqu'un qui va être lié au réseau. Donc oui, alors on va bien voir, en fait, quand on commence à travailler sur ces situations-là, il faut effectivement pour fiabiliser et créer, si vous voulez, une confidentialité et une confiance, il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, à penser. C'est pas inné. Donc il y a vraiment besoin presque d'élaborer une sorte un peu de protocole. On va vérifier certaines choses. Et quelquefois, on fait ce qu'on appelle un diagnostic sécurité, c'est-à-dire pour sécuriser la personne. Pas parce qu'on l'a mis dans un lieu sécure, mais parce que justement, on a vérifié qu'elle ne peut pas être retrouvée d'une façon ou d'une autre par les uns et par les autres. Le téléphone portable, ça c'est vraiment un grand classique, quoi. C'est-à-dire que soit le téléphone portable sonne, bon ça du coup vous tout le temps, donc on peut se dire là il y a comme un truc un peu bizarre. Mais des personnes, on leur demande avant de rentrer dans la salle d'entretien d'ouvrir leur téléphone, c'est-à-dire d'appeler une personne. De le laisser comme ça sur la table, ce qui fait que la personne est à l'autre bout du fil, elle entend tout. Votre entretien, c'est mort. Bien sûr, elle ne pourra rien dire. Le téléphone, il est là, quoi. Alors, ce n'est pas pour que vous deveniez parano et tout, mais y a vraiment des. Toutes sortes de choses à penser, quoi. Dans le foyer dont je parle, là, Kucha, ce fameux foyer caché, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'accès à Internet. Sinon, ce n'est pas possible de les sortir, ouais, tout simplement. Enfin, je ne dis pas que c'est facile sans ça, mais si on ne fait pas ça, ce n'est pas possible. Ouais. Ouais, en général, les 2 premières semaines, ils font tout pour partir. Là. Une, effectivement, où c'est une juge, elle s'était fait taper, mais vraiment violemment. Elle est arrivée, malgré qu'elle ait été frappée, tout ça. Quoi. Les 2 premiers jours, elle a essayé de fuguer. Alors, je ne peux pas vous dire où c'est, mais la marche à pied, faut aimer la marche à pied pour partir. Quoi. C'est vraiment loin de tout. Donc, il n'y a pas de barre aux fenêtres, mais... Et le troisième jour, elle a fait une tentative de suicide, quoi. Donc en général, ouais, le début c'est pas top, mais elle est restée. Normalement, c'est voilà. Donc elle est restée finalement 7 mois, puis après, elle a pu continuer son parcours. Donc oui, c'est violent parce que là, c'est une déprise un peu en mode accéléré qu'on va organiser. Et au début, oui, comme ça a été très bien dit, on se sent vide. Enfin, on n'existe plus. Et heureusement qu'il y a des jeunes qui ont vécu la même chose. Enfin, c'est même pas les éducateurs, alors ils font un super boulot, etc. Mais quand on discute avec des jeunes qui sont passés par là et qui ont du recul, ils vont vous dire, en fait, moi je sais que les éducateurs, ils ne me comprenaient pas, ils n'ont jamais vécu mon truc et tout. En revanche, le fait qu'il y a d'autres jeunes qui ont dit, non, mais attends, moi aussi j'avais le même truc. Là, pose-toi un petit peu, t'inquiète pas, ça va passer, et tu vois, c'est pas si terrible et tout ça. C'est ça qui les a aidés, quoi. D'où le groupe de pères est vraiment essentiel. Parce que notre parole, elle n'est pas légitime, elle n'est pas entendable à ce stade-là. Ouais. Donc, c'est vraiment d'autres jeunes qui ont eu les mêmes parcours. Alors, ce qui est subtil, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient eu totalement les mêmes parcours, mais des parcours proches. Parce que nous, on refuse toujours de prendre 2 jeunes d'un même réseau, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un réseau envoie une vraie fausse victime pour les découvrir. Bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça nous est arrivé d'avoir que des jeunes filles françaises victimes d'exploitation sexuelle. Elles ne parlaient que business. Et donc, il y en a toujours une qui prend le pas sur l'autre. Donc, du coup, il faut vraiment construire un groupe où il y a un équilibre dans les formes d'exploitation. Sinon, il y a un risque aussi de recréer à son petit niveau une sorte d'incubateur. Bon, ce n'était pas le but. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, en fait... D'où l'intérêt de ce travail, c'est qu'il y a beaucoup de choses à penser. C'est pas évident. Et bien sûr, on apprend en se trompant. Hein. Donc, tout ça, on l'a découvert, pas parce qu'on avait la science infuse et qu'on se dit, ouais, il faut faire gaffe, ça, ça, ça. C'est en se trompant, en essuyant des échecs, mais en les analysant, au moins ça, qu'on se dit, bah, en fait, non, là, ça n'a pas marché parce que, en fait, voilà, il y avait ça ou ça, quoi.
Améliorer la situation. Du coup, il y a des équilibres à trouver,
ouais.
Aussi à se méfier de soi.
une femme, qui sont pas des adultes comme les autres, des indicateurs et se dire, bon, ben, on va la protéger parce qu'elle n'est pas en capacité, parce qu'elle est dans cette incapacité à penser et à agir contre son gré, par exemple, à des moments qui ne sont pas les siens. Donc, je trouve que c'est délicat comme exercice.
Oui, c'est un vrai exercice délicat. Donc, comme tu dis, c'est plus évident pour les mineurs parce qu'en fait, la loi, quelque part, nous oblige. Voilà, il y a une loi sur la protection de l'enfance et donc, vous êtes au courant de fait, ben, vous ne pouvez pas les laisser se perpétuer sans rien dire, sans rien faire, etc. Après, on a par exemple le réseau accès pour des majeurs. Il existe effectivement des systèmes d'éloignement. Et ça passera par l'éloignement au secret, donc ils sont très semblables. Hein. Et en fait, on s'est inspiré de ça, donc ça ne va pas toucher que des mineurs, et quelles que soient les formes aussi, pour les sortir de ça. Et on a des jeunes, voilà, récemment, on a rencontré des jeunes, vous voyez, qui étaient pris effectivement dans le trafic de stupes, jeunes algériens, qui ont été éloignés. Alors, il y avait une petite adhésion, parce qu'ils ont vraiment eu très peur et tout, et ça, il y a aussi des signes. Alors, bien sûr, là on peut... Par exemple, sur des jeunes qui sont dans du trafic de stupes, des jeunes algériens souvent, ou tunisiens, certains peuvent avoir une balafre au niveau de la joue. Et ça, alors c'est là où c'est important de comprendre comment fonctionne chaque réseau criminel. C'est pour ça qu'il faut vraiment cette double connaissance. Et c'est ça qu'on pourra approfondir ensemble. C'est que, alors, on a effectivement des jeunes qui utilisent des médicaments, ça crée une emprise chimique et tout ça. Enfin, ça, c'est des choses que vous avez entendu parler. Et ces médicaments font souvent qu'ils vont se scarifier, s'automutiler. Et donc, OK, ils ont des balafres. En revanche, le fait qu'ils aient une cicatrice sur la joue, ce n'est pas ce phénomène-là. C'est vraiment un avertissement de la part des réseaux qui les exploitent en disant, lui, il a déconné. Et donc, si c'est sur le visage, justement, c'est un endroit qu'on ne peut pas cacher. Et donc, c'est pour expliquer à tous les autres jeunes que le prochain, ou si on ne respecte pas les règles, ce que tu disais, effectivement, on est dans un système, on doit totalement obéir, se conformer. S'il y a le moindre écart, eh bien, dans ces cas-là, on va le signifier aux jeunes en question et aux autres, en montrant une trace visible. Et souvent, les jeunes, c'est un moment qui est déclencheur. Donc, en fait, il faut savoir identifier ces moments déclencheur qui fait que en fait il sait qu'en fait c'est une espèce de gros carton jaune et le carton rouge ça peut être un homicide. Enfin, donc il sait qu'il est vraiment là en danger et donc à ce moment-là souvent on a des jeunes qui décident de quitter la région où ils sont et c'est là-dessus où il faut être en capacité de comprendre ce qui se passe et là du coup il y a besoin d'une connaissance un peu des fonctionnements des différents réseaux pour pouvoir identifier les choses. Ensuite quand en fait, si vous voulez, il y aura toujours une petite adhésion, mais elle ne va pas être formulée comme ça. Et c'est souvent après qu'on découvre pourquoi il y a une adhésion. Souvent, voilà, on a des jeunes filles pickpocket qui, avant, elles sont arrêtées, elles se marrent, etc. Elles n'en ont vraiment rien à battre. Et puis, on se dit, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, tout d'un coup, on voit que la même fille, elle est tout le temps arrêtée. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir interpréter. Si elle se fait tout le temps arrêter alors qu'avant, elle ne se faisait pas arrêter, c'est qu'en fait, elle a envie de sortir. Elle ne va jamais pouvoir vous le dire, je veux sortir, protège-moi. Mais là, on se dit, il y a quelque chose. Et puis, quand on creuse, souvent, on s'aperçoit que cette jeune fille, elle était enceinte, elle vient d'avoir un enfant. Mais quand on discute un an, deux ans plus tard, elle dit, en fait, moi, quand j'ai eu un enfant, je me suis dit, mon enfant va revivre la même chose. Et je me suis dit, c'est le moment de casser avec le réseau. Donc, il y a vraiment des choses qu'on ne maîtrise pas comme ça. Mais par contre, il y a des signes qu'on doit être en capacité de lire. Alors, ça vient avec l'expérience, mais c'est pour ça que c'est important de discuter vraiment dans les détails de chaque réseau. Parce que, voilà, le fait tout d'un coup que la personne se fasse tout le temps arrêter, c'est pas neutre. Le fait qu'il y ait une balafre, c'est pas neutre, vous voyez. Alors, c'est pas toujours aussi évident, mais déjà, si on commence à identifier ces signes-là, qui sont des signes d'appel à l'aide, mais qui ne sont pas forcément visibles parce qu'il n'y a pas d'expression vous voyez, qui dit clairement ce que la personne veut, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, à la fois, je te rejoins. Au final, il y aura quand même une adhésion à une volonté de changement. Sinon, ça ne marche pas du tout s'il y a zéro adhésion. En revanche, voilà, ce n'est pas forcément une adhésion qui est visible dans l'intention qu'a la personne. C'est juste, ça fait six fois qu'il y a un service qui la voit, on va se dire, c'est quand même bizarre. Ouais. Vous voyez, donc, et puis beaucoup de gens aussi vont bricoler leur protection pour trouver un entre-deux. Donc en fait, c'est pas la protection de l'enfance qui les attire, ou c'est pas le CHRS machin bidule prêté par la dette qui va les attirer, mais ils vont nouer parfois une relation pour se dire, au cas où, je montre que, par exemple, j'ai une assistante sociale qui pourra m'aider. Et quand ça ne va pas, je vais voir cette assistante sociale. Donc, en fait, il va y avoir des stratégies aussi que vont mettre en place les personnes qui ne vont pas se matérialiser par une protection dans le dur, mais qu'il faut là aussi savoir interpréter, quoi. Oui, alors c'est pour ça que voilà, ce qu'il y a. Alors, la particularité de la traite, c'est qu'en fait, ça va toucher l'aspect police-justice, puisqu'on est quand même sur une organisation qui cherche à exploiter des personnes, même si c'est une toute petite organisation, peu importe. Donc, il y a vraiment des gens qui sont conscients de faire un délit. Donc, si vous voulez, c'est un peu moins subjectif que sur des violences conjugales, parce que là, il y a quand même un niveau d'organisation et c'est pensé pour une rentabilité. Donc du coup, c'est quand même plus élaboré. Donc il y a cette partie-là. De plus en plus, il y a une partie santé. On voit que voilà, au niveau de la santé mentale et autres, il y a une partie voilà, éducative. Et il peut y avoir une question aussi de pouvoir accéder à des papiers si voilà, la personne est en situation irrégulière et tout. La complexité, c'est que chacun dans son coin, on est vraiment impuissant. Si on fait du tout éducatif ou du tout répressif ou du tout je sais pas quoi, ça donne strictement rien. Et parfois, même, ça peut être dangereux. Donc, c'est là où ça suppose alors de comprendre un peu les logiques et après, ça suppose vraiment un travail multi-acteur. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, tout le monde est embêté avec cette question de la traite puisque les policiers vous disent, voilà, nous, y a un trafic d'armes. On arrête les mecs qui font le trafic d'armes, on prend les armes, on les détruit, ça on sait faire. Trafic d'êtres humains, on arrête les trafiquants. Le problème, c'est que la marchandise, entre guillemets, bah, c'est des personnes. Du coup, il faut appeler l'assistante sociale et tout. C'est, des éducateurs, c'est quoi cette histoire et tout. Donc du coup, c'est compliqué aussi pour eux parce que ils savent pas quoi faire de cette marchandise. Ouais. Et des personnes, si elles savent que... les personnes qui les exploitent ne sont pas incarcérées ou ne seront pas arrêtées ou sont toujours présentes dans la nature, bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile de sortir. Donc, on peut pas, et ça peut même être dangereux. Donc, on peut pas, voilà. Exactement. Par exemple, à Lyon, voilà, on travaille donc voilà, avec des associations qui font des maraudes et tout. Et puis pendant 2 ans, on a des associations qui travaillent avec des femmes qui sont en situation, voilà, de prostitution. Et là, on a eu en fait un gars qui a été arrêté, et en fait la DETS avait mis en place un système en fait d'hébergement rapide. Et ce qui fait, on a été surpris nous-mêmes, c'est qu'en fait au moment où la personne a été arrêtée, alors que on leur a fait 15 000 stratégies pour essayer qu'elles adhèrent à quelque chose, rien n'a marché. Et là, effectivement, il y en a 3 qui ont demandé d'être hébergées. Alors, elles ne sont pas dit qu'elles étaient victimes de quoi que ce soit et tout, mais elles ont dit, voilà, on aimerait être hébergées et tout. Donc, parfois, ça peut être un déclencheur. Après, quand on arrive à voir les situations, il y a plus d'adhésion qu'on croit. Hein. C'est-à-dire que, voilà, là, dans un foyer de migrants, donc il y avait un peu un homme à tout faire qui faisait tout pour les uns et pour les autres. Et puis finalement, le foyer a signalé ça, on a un peu réfléchi, on a pu trouver un hébergement et tout ça. Et un peu, voilà, de côté, on a trouvé un interprète qui a pu le rencontrer, discuter avec lui. Et en fait, il nous a dit, bah, en fait, moi j'en peux plus, je veux sortir et tout. Donc, bon, tout était prêt. La personne a disparu à ce moment-là. Bon, ça, c'est assez classique. Hein. Et là, il y a effectivement, donc pendant 4 mois, plus de nouvelles. C'est une merde et tout. Et puis là, il est réapparu. Et là, il a pris l'hébergement. Alors, c'est fragile et tout ça. Mais le fait d'avoir une solution, effectivement, en gros, il y avait une négociation avec la dette du coin. De mettre à disposition, un peu comme ça, en fléché, des hébergements pour des personnes victimes de traite, le fait qu'on savait qu'on pouvait compter sur un accès hyper rapide, ben, finalement, voir cette situation de traite et se dire, en fait, on va réagir tout de suite, ça devenait possible, alors qu'avant, on faisait un petit peu les choses à l'envers. On se dit, bah, de toute façon, il n'est pas prêt, il ne peut pas adhérer, donc ce n'est pas la peine de chercher quelque chose et tout. Donc, c'est tout ça qui est un petit peu compliqué, mais parfois quand on a la solution, en fait on s'aperçoit que du coup on se dit, ben, en fait on a un truc à lui proposer clé en main, on lui explique, il veut pas, on le perd, c'est pas grave. Mais moi je suis un peu surpris parce que moi le premier je pensais pas que, et finalement on voit que là, ben, finalement ils vont tenter le truc quoi. Et c'est pas des trucs mirobolants, quoi. Souvent, c'est voilà, 3/4 d'heure, machin et tout. Enfin, ça fait pas forcément rêver, mais donc y a aussi ça. Hein. Pas du tout d'avoir de solution, ça fait que ça nous auto-conditionne sans qu'on s'en rende compte pour se dire finalement c'est trop compliqué, on va jamais réussir à mobiliser les autorités. Donc voilà, on se dit c'est tellement. Faut mieux déjà avoir une palette de solutions et après, dès qu'on voit une victime, on se dit tiens, ça peut être ça. Ouais. Oui, pardon. Il est encore solide.
Il y a le truc, tu trouves une solution, parfois ça marche. Parfois ça marche bien, etc. Okay. Mais je veux dire, la solution vient avec le problème, dans le sens où ben, il raconte cette histoire de l'adrénaline, tu vois. Mmh. Pendant des années, ils ont vécu sous tension. Donc, toujours cette hyper-vigilance. Nécessaire pour pouvoir survivre. Mmh. Et puis ils arrivent dans un moment où ils ont l'impression que tout s'arrête comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, ça manque d'adrénaline. Mmh. Et donc ils peuvent pas rester parce qu'ils ont besoin de quelque chose de fort, ils disent tout le temps, tu vois. Et donc j'ai l'impression que nous, ce qu'on leur offre dans les hébergements, ça manque de défi d'exciter, tu vois. Y a
Ben alors,
cette hypertension dont les gens ont besoin,
ouais.
Parce qu'ils sont conditionnés.
Oui, alors, bon, je pense mineur et adulte, il y a quand même des différences. Mais nous, effectivement, du coup, comme on ne peut pas tenir les personnes sous cloche trop longtemps, c'est 6 mois renouvelables une fois, justement pour qu'ils rapidement ils envisagent la suite. Donc 6 mois, ce n'est pas grand-chose. Et souvent, ce qui nous a surpris, c'est que, en fait, au bout des 6 mois, les personnes vont se rapprocher de leur réseau à nouveau. Donc on se dit, bah mince, tout ça pour ça. Mais en fait, moi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont développé des mécanismes d'autodéfense suffisants, alors que c'est quand même une période très courte, pour dire, et en fait, ils rappellent, ils disent, non, en fait, j'en veux pas, quoi. Donc, il y a besoin à nouveau d'éprouver la liberté. Alors, bon, voilà, là, ils sont vraiment tenus un peu sous cloche, pas de téléphone, pas de machin, etc. Donc, quand ils sortent, ils ont besoin de réprouver la liberté, mais ils arrivent quand même suffisamment à identifier effectivement les petites red flags là, dont ce qui va les mettre en danger. Et alors, c'est jamais un long fleuve tranquille, et bien sûr, voilà, la personne qui fait de cambriolage continue à en faire quelques-uns, etc. Mais n'empêche qu'il se rapproche plus. Et donc, il faut accepter qu'il y ait une petite période d'errance où il retrouve un peu la liberté. Et après, et c'est là où…
C'est un cercle.
Ah oui.
On regarde toujours. Mmh. Tu vois, si, moi, j'ai toujours été très intéressée par ce qui s'est passé pour les enfants de Moissac. Mmh. Tu vois, les enfants qui avaient passé la ligne de démarcation. Mmh.
Oui.
Le fait que quand tu as vécu vraiment des situations assez dramatiques, tu as développé ton vigilance, si on ne te propose pas d'en faire quelque chose, tu vois, en fait, tu coules, quoi.
Oui, oui. Alors,
tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je vois, parce que nous, effectivement, sur le. En fait, tu as vraiment, notamment sur les activités, au début, ça va être très rythmé, quoi. Alors, il ne faut pas que ce soit tout le temps comme ça, parce qu'il y a vraiment besoin d'être. Pris dans quelque chose, d'effectivement pas être confronté au vide ou à la solitude. Donc, le fait que voilà, il y ait relativement peu de temps mort, etc., au début, c'est vraiment important. Ça les aide à tenir parce que sinon, c'est d'avoir un trop grand vide, c'est trop difficile. Ouais. Et après, ce qui est... Oui. Ouais. Ouais. Oui, complètement. Je pense que c'est là où il y a. Et même, il y a plein de choses à penser. C'est-à-dire que certaines, par exemple, si on ne respecte pas les règles, il peut y avoir certaines sanctions. Si des sanctions renvoient à l'exploitation, Là, effectivement, on en a qui vont complètement décompenser. Enfin, donc, il y a beaucoup de choses, bon, voilà, avec l'expérience qu'on identifie. Mais du coup, il ne peut pas y avoir de sanction-privation, quoi. Une sanction, ça peut être tu pars en rando une journée avec un éducateur. Ça, c'est une sanction. Si tu n'as pas le droit de faire ça, 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 ça peut renvoyer et là, ça peut devenir hyper violent. Donc, après, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, voilà, beaucoup de choses à repenser. Parce que nous, on avait donc, c'était un jeune adulte. Donc, lui, il voulait travailler. Souvent, c'est un peu le travail, si tu veux, qui va compenser. Et au début, on a pu le mettre sur un stage en hôtellerie. Et je ne sais pas quoi, son maître de stage, ou quand il faisait son stage, le gars qui l'encadrait, ou celui de l'hôtel, commence à dire, bah voilà, faut que tu nettoies là les toilettes. Et là, il nous a appelé en panique en disant, on ne m'a jamais parlé comme ça. Moi, il y a un mec dans mon réseau qui me dit de nettoyer les chiottes, etc. Il était dans le canal et tout ça. Enfin, ça lui a renvoyé un truc où il avait l'impression d'avoir été humilié parce qu'on lui a dit ça, quoi. Et du coup, on a vu que en fait, cette activité n'était pas du tout adaptée. Donc voilà, après, il est passé sur un truc de monteur de scène, vous voyez, pour les festivals, et là, il n'y avait pas de problème. Effectivement, il y avait de l'activité physique et tout. Mais l'hôtellerie, on n'avait pas imaginé que voilà, ça le remette dans une place où voilà, il se sentait humilié, en fait. Alors, peut-être que je vois que l'heure tourne. L'idée, oui, l'heure a bien tourné. C'était... un petit peu par rapport à ce qu'on a balayé, c'est de savoir, vous, est-ce qu'il y a des... alors, on ne va pas rentrer dans les situations, mais des formes que vous identifiez qui semblent correspondre à des situations de traite, que ce soit économique, domestique, contrainte à commettre des délits, vous voyez, est-ce que, voilà... ouais, alors... Une, deux, allez-y. Ouais. Bon, on peut commencer par vous, puis après vous. Ouais.
Oui, du coup, si je reviens dans le cadre de l'expérience d'avant, où je travaillais avec des accompagnés, c'est vrai que le discours dans les milieux de femmes, alors que ce soit la traite, de la traite, disons, économique aussi, du fait que il y a un petit jeune là qui me vient en tête, c'est qu'il est parti. Pour venir chercher l'idéal en France pour pouvoir aider la famille. Ce jeune, il avait 14 ans, sauf que en échange, son frère aîné a dû rentrer dans un espèce de gant en Côte d'Ivoire qu'on appelle les microbes.
Oui, oui, oui. C'est jeune,
bien,
ouais.
Donc, l'objectif, c'était de martyriser la population, plus tuer, en fait, avoir des actes assez atroces pour justement payer la dette. Le fait que son jeune frère ait dû partir pour venir ici. Donc c'est vrai, j'en ai pas mal, il y a eu ce cas-là, il y a eu d'autres cas où c'est la maman qui a dû vendre sa parcelle pour laisser partir les enfants. Enfin, j'en ai eu de pas mal. Après, aujourd'hui, effectivement, c'est plus une migration économique, on est plus sur la migration, en tout cas, de mon ressenti à moi, où les jeunes partent parce qu'il y a un danger, que là c'est plus économique parce que c'est une difficulté financière au pays. Et de plus en plus tôt, ils sont obligés de porter un fait qui n'est pas le leur, de sortir des familles qui sont restées au pays.
Oui. Oui.
Oui. Même si monsieur, il pourrait avoir des auxiliaires de vie, on lui a tout proposé, il préfère que ce soit sa femme qui s'occupe de lui de A à Z.
Oui, oui, oui. Alors, effectivement, c'est une situation d'exploitation domestique. Après, toujours la même chose, faut regarder de quelle heure à quelle heure, enfin, vous voyez, pour justement étayer vraiment, mais ça, ouais, et les situations d'exploitation domestique, c'est les moins repérées parce que ça se passe à l'intérieur des maisons, vous voyez, c'est pas à la place d'un travail, enfin, si quelqu'un travaille et qui est payé un lance-pierre dans les vignes, bon, ça semble assez évident. Mais les situations d'exploitation domestique, c'est pas évident à repérer.
Oui, mais madame, elle a pas de papier, elle a zéro ressource. Donc, elle est complètement dépendante de lui.
Mais complètement. En tout cas, sur l'identification, ouais. Est-ce que vous, justement, vous arrivez à repérer, identifier d'autres situations, enfin, chacun dans vos contextes professionnels, mais. Que oui. Ouais, non, mais c'est effectivement une exploitation qui est assez difficile à qualifier parce que, notamment si c'est des étrangers, ça peut basculer dans le travail dissimulé, ce qui, enfin, le travail, vous voyez, le travail au black, quoi, comme on dit. Alors, là-dessus, il y a des critères qui sont assez précis, qui sont, un, la charge de travail. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle travaille 8 heures par jour, 12 heures par jour, 16 heures par jour? Donc, il faut évaluer la charge de travail. Comme vous l'avez dit, les conditions d'hébergement. Est-ce que c'est des conditions dignes ou indignes? Si elle dort sur le chantier, enfin, c'est indigne. Vous voyez, donc il y a... Et il y a le niveau de rémunération. Donc en fait, pour basculer de l'un à l'autre, ce n'est pas juste le fait que la personne n'ait pas de contrat de travail qui fait qu'elle est considérée comme victime de traite, c'est qu'il faut que se rajoutent ces trois critères en plus. Voilà, donc... Niveau de rémunération, charge de travail, si vous voulez, et conditions d'hébergement. Et alors, la difficulté, c'est ça qui est important, c'est que dans le réseau qu'il faut que vous vous créez, c'est qu'on n'a pas toujours des gens qui, y compris des gendarmes ou des policiers, qui connaissent bien ces infractions et donc qui vont bien les qualifier. Et donc, c'est vraiment important. Donc, par exemple, il y a un office central, mais comme son nom l'indique, du coup, qui au niveau national, du coup, peut être saisi. C'est l'OCLTI qui, eux, sont spécialisés sur cette infraction, si vous voulez, de la traite des êtres humains dans ce qu'on appelle l'exploitation par le travail. Donc, alors, ce qui est important, c'est d'identifier certains partenaires. Donc, notamment, il y a une association, le CCEM, le Comité contre l'esclavage moderne, qui peut vous y appuyer et orienter vers le bon service d'enquête. Donc, voilà, il y a un petit réseau à se faire avec notamment des enquêteurs qui connaissent un peu mieux la matière, ou si ce n'est pas le cas, parce que bien sûr, on fait avec ce qu'on a. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup avant que la personne se pointe au commissariat, etc., de les rencontrer et de leur expliquer. Moi, ça m'était déjà arrivé pour un monsieur bulgare qui devait avoir, je ne sais pas, 80 ans, enfin, qui mendiait. Et bien sûr que le monsieur était un peu délirant, quoi. Donc, il expliquait qu'il avait sa mère et sa grand-mère, qui avait 125 ans, etc. Bon. Mais par contre, sur les faits, effectivement, il mendiait bien. Vous voyez, il était comme hiver pendant des... Et en fait, en allant voir le commissariat, donc lui, tout d'un coup, subitement, voulait parler. Mais en allant voir le commissariat, en fait, on l'a prévenu à l'avance en disant, ben voilà, on a une personne Et justement, elle est un peu fragile parce que vous allez voir qu'il y a des parties de son discours qui ne sont pas réalistes. Mais justement, c'est pour ça qu'elle est plus facile à exploiter. Et donc, et là, en expliquant les choses, là, on n'avait pas le choix parce que la personne était démontée dans la voiture et voulait parler comme ça. Enfin, du coup, donc, c'était un peu le premier commissariat qu'on pouvait trouver. Et donc là, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a expliqué. Il va falloir un peu aussi identifier des partenaires. Sur les histoires d'exploitation par le travail, c'est vrai qu'on a beaucoup de gendarmes qui ont souvent un savoir-faire là-dessus. Alors, j'ai rien contre les gendarmes policiers, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, on a des enquêtes qui sont beaucoup plus fouillées. Et ça, c'est essentiel parce que sinon, après, ça ne fonctionne pas. Et il faut savoir aussi pour les personnes que ça leur donne des droits. Là, récemment, peut-être que vous avez entendu parler, Annel le répond, donc c'est en Champagne. On a eu 54 personnes qui étaient sans PAP depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans pour certaines d'entre elles, qui avaient été recrutées sur des camps de migrants, comme on dit, en région parisienne, amenées en Champagne et qui ont été exploitées pendant 3 semaines. Qui n'avaient presque rien à manger, qui dormaient dans des pneus, etc. Enfin, bref. Et en fait, sur les 54, donc elles ont été accompagnées par un syndicat, un avocat, et les 54, du coup, ont été régularisées. Alors que certains, ça faisait vous voyez, 12 ans qu'elles étaient en France sans papier. Donc, et les victimes ont voulu aller jusqu'au bout parce qu'elles savaient qu'il y avait cette perspective-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que, avec les adultes, notamment sur l'accès à des droits, ça peut être un levier vraiment pour justement qu'elles sortent de cette situation. Mais du coup, il faut, faut pas se planter. Et en fait, le conseil, c'est de jamais rester seul. Vous ne pouvez pas porter une situation tout seul. Il faut vraiment à chaque fois s'allier. Et tout le travail, et d'où cette idée de faire des groupes de travail, c'est que si on porte des situations à plusieurs, en fait, on a beaucoup plus de résultats qu'on imagine. Par contre, s'enfermer seul et s'épuiser avec une personne où il y aura des hauts, des bas, enfin, vous connaissez comme moi, là, en fait, vous allez être découragé. Vous allez vous cramer, comme on dit. Et ça ne va rien apporter. Donc, tout l'enjeu, c'est comment très rapidement basculer sur un petit réseau de professionnels dans son domaine et trouver une stratégie pour permettre en fait un accompagnement et une sortie. Voyez, surtout jamais s'isoler avec ces situations et jamais les porter seuls trop longtemps. Parce que là, vraiment, on se met en danger, on met en danger la personne. Et en général, les résultats sont très décevants, quoi. Alors, l'idée un petit peu, parce qu'effectivement, on avait dit qu'on finirait pile à l'heure, donc on va tenir cet engagement. Donc, la prochaine fois, vous avez compris, il y aura des groupes de travail. On va vraiment partir de vos situations et tenter d'approfondir. Alors, soit en donnant des connaissances sur des réseaux, soit en réfléchissant avec ce qu'il y a ici sur le territoire au niveau local sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc moi, je peux avoir quelques éléments de comparaison sur d'autres territoires, mais je ne connais pas, je connais pas les acteurs ici. Donc c'est vraiment à vous de penser aux acteurs. Ce qui est important, c'est que vous puissiez réfléchir vraiment à des situations. Peut-être que certaines, ce n'est pas de la traite, et que, mais peu importe. L'idée, c'est quand même de partir un maximum de l'existant et pas de partir de trucs qui sont sympas, mais qui ne correspondent pas au public que vous avez. En pensant à tout. Parfois, vous voyez, c'est juste à travers l'habitat, pour accéder à un habitat, on fait tel truc. Enfin, comme on voit que faut pas se bloquer que sur des formes, mais plutôt sur des personnes qui, finalement, sont utilisées pour des services, pour vous voyez, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut pouvoir identifier pour la prochaine fois. Et qu'on aura le temps d'approfondir en petits groupes pour commencer justement à mettre en place un peu des stratégies, alors au sens sociologique, pas des stratégies maléfiques, si vous voulez, pour trouver comment faire quand ces situations se présentent et que vous ne retrouviez pas seul et en train d'appeler tout le monde et que personne ne réponde. C'est bon pour tout le monde. Je crois que la libération peut avoir lieu. Ouais. Voilà, et j'en profite pour remercier toute l'équipe du SIAO qui nous a magnifiquement accueillis et qui a organisé ça parfaitement. Donc voilà, ça va. Merci. Hein.